Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 149e Comics Weekly. Cette semaine, grosse sortie puisque c'est la fin d'Age of Ultron et pour pouvoir en parler correctement et avec spoiler, nous avons décidé de placer la review à la fin de l'émission, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez écouter toute l'émission et zapper la review d'Age of Ultron si vous ne l'avez pas encore lu et vous ne voulez pas être spoilé. Pour le reste, pour une émission classique. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Avec moi cette semaine pour vous parler de toutes ces charmantes petites reviews, Flo.
Oui, salut à tous.
Ah, je t'ai pris de court. Bruno.
Oui, bonsoir à toutes et tous.
Et Sam.
Bonsoir.
Le mec motivé. Bonsoir. Allez, on commence par Marvel et on commence avec le Avengers 14. Alors, je l'ai dit, on va parler d'Age of Ultron à la fin de l'émission. Mais Age of Ultron s'arrête, hein, ça c'est pas un spoiler, c'est le dernier numéro. Eh bien, Avengers, c'est déjà le prélude to Infinity. C'est marqué sur la cover. Comme ça, on perd pas de temps chez Marvel. À peine un se termine, l'autre commence. On va retrouver à l'équipe, comme d'habitude, Jonathan Hickman, accompagné de Nick Spencer depuis déjà quelques numéros, et au dessin, Stefano Caselli. On va repartir sur ce qui intéresse Jonathan Hickman dans la série Avengers depuis le départ, c'est-à-dire cette espèce de terraformation de la Terre par, j'ai encore oublié son nom...
Ex Nihilus.
Ex Nihilus, je veux l'appeler Exodus à chaque fois. Ex Nihilo, oui, peu importe. Enfin, le truc jaune, là. le truc jaune sur Mars.
La grosse banane.
Le truc qui ressemble à un machin des mondes engloutis, là.
Très bonne référence.
On repart sur ce principe-là puisque il y avait eu plusieurs bombes qui avaient été envoyées par Ex Nihilo sur Terre qui devaient terraformer la Terre et chaque zone contaminée par ces bombes devait servir un propos unique. On va commencer avec un endroit qui doit faire que la Terre va se réparer d'elle-même, ce qui simplifierait bien des problèmes quand on connaît les problèmes écologiques actuels. Hein, c'est beau les comics. Et on va se rendre compte que la réparation de la Terre ne peut pas avoir lieu. Et puis on repartira ensuite sur un autre endroit qui là est dédié qu'à la communication et ça ne marche pas non plus. On se rend compte finalement que la Terre est peut-être déjà trop amochée pour que le plan fonctionne. Serait-ce dû à ce qu'on a pu voir dans Age of Ultron? Eh bien, on verra la réponse plus tard. En tout cas, là, on va ensuite assister aux Avengers qui sont pris de court. On se rend compte que toutes les heures à peu près, on a 8 secondes avec un gros blackout qui coupe 90% des sources d'énergie de la Terre. Et ça fout le monde dans la merde, puisque bah, pendant ce temps-là, les silos de missiles nucléaires lancent leurs ogives, les barrages s'écroulent, les satellites retombent sur Terre. Bref, les Avengers ne chôment pas. Et ils essayent de comprendre d'où vient cette menace, d'où ça part. Et malheureusement pour eux, l'AIM va continuer de faire foirer le truc. Voilà grosso modo ce qu'on peut en dire. Prelude to Infinity, j'ai pas l'impression, enfin j'en sais rien. Puisqu'on nous dit qu'Infinity, les Avengers doivent partir dans l'espace. J'ai l'impression que c'est la Terre qui a des problèmes. L'épisode est sympa, mais franchement, ce plot commence à me gaver, quoi. Ça fait 14 numéros qu'on est là-dessus, quoi. Et ça n'avance pas.
C'est pas qu'on n'avance pas, c'est qu'on comprend pas. On comprend pas où ça va, on comprend pas les éléments, et franchement, voilà, je me sens pas porté par quoi que ce soit, en fait, dans cette intrigue.
Mais le truc, c'est qu'il y a des idées intéressantes dedans, mais notamment là, ces espèces d'entités qui se sont créées pour réparer la Terre ont un look excellent, enfin, c'est vraiment super sympa, mais ça n'avance pas, quoi. Ça n'avance pas. Moi, je suis de plus en plus déçu par ce Avengers qui, pourtant, a de vraiment de bonnes idées. On sent qu'Hickman, on sait qu'il a envie d'aller quelque part. Il nous le fait sentir, qu'il va nous amener, que tout est maîtrisé. Mais c'est trop délayé, quoi. Ou alors, en tout cas, il faudrait qu'il nous donne un peu plus de réponses.
Donc, j'ai pas loupé grand-chose si j'ai lu que le numéro 1. Parce que j'ai lu que le numéro 1 et on parle encore de Ex Nihilo, 14 numéros après.
Il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont indispensables à la compréhension totale. Il faut vraiment... malheureusement,
c'est vraiment le chapitre 1 d'une histoire plus vaste. Donc là, on en est encore, j'ai l'impression, à la phase d'exposition. mais on comprend pas où ça va. C'est.
Et pour enfoncer le clou, rappelons que les Avengers devraient compter 18 membres, qu'on nous sommes à l'épisode 14 et qu'il nous manque toujours 6 membres. Hein. On ne sait toujours pas qui c'est. Il serait temps de développer l'équipe alors qu'on nous a teasé depuis avant le numéro 1 qu'il y aurait 18 membres dans cette équipe quand même. Ça fait plus de 6 mois qu'on sait qu'il doit y avoir 18 membres. Ça n'avance pas. Bref, tout ça pour dire... Bon, visuellement, par contre, c'est très joli. L'histoire est sympa, mais j'ai envie de dire, allez, check it, quoi. Check it, parce que je vais encore laisser sa chance à Hickman, mais ça commence à me fatiguer. On va passer à la suite de chez Marvel. C'est la sortie du 9e épisode de Indestructible Hulk, et c'est Flo qui va nous en parler.
Oui, début d'un nouvel arc, scénarisé par Mark Waid, évidemment, et dessiné cette fois-ci par Matteo Scalera, que je découvre et qui s'était déjà montré dans Secret Avengers, je crois, de Rick Remender. Alors, l'histoire, bah, c'est un début d'arc, donc c'est encore une mission du SHIELD avec Hulk, qui est agent du SHIELD, et donc ils vont en gros larguer Hulk en plein New York, sur un bateau qui est censé contenir des armes volées, des armes très dangereuses, qu'un groupe de terroristes est parti dealer à New York. Donc, on largue Hulk et on fait beaucoup de dommages. Sauf que, on apprend que Hulk, qui passait des coups de fil un petit peu discrets, qui ont le don d'énerver Maria Hill au plus haut point, on apprend qui était à l'autre bout du fil, et c'est sur la couverture, c'est Daredevil Matt Murdock, qui est évidemment son avocat, puisque Matt Murdock est l'avocat de tous les super-héros Marvel. et donc, c'est un numéro team-up, en fait, un numéro team-up Hulk-Daredevil, qui vont aller essayer de casser la gueule à ces dealers d'armes, et qui vont être face à un mec qui a une des armes qui est particulièrement puissante et qui notamment balance des gros ultrasons qui fait très très mal à Daredevil. Et que dire d'autre, si j'en dis plus je raconte l'histoire, mais c'est très bien écrit parce que c'est Mark Waid, donc bon, bah c'est toujours très solide. C'est très fun à lire, c'est très drôle. Dès la première page, c'est vraiment très drôle, parce que la relation conflictuelle entre Maria Hill et Bruce Banner est vraiment vraiment drôle, et là pour le coup c'est très bien traité. Daredevil est très bien écrit, vu que c'est le personnage qui l'écrit le mieux en ce moment. Donc c'est très plaisant à lire, c'est assez joli, c'est très anguleux, Matteo Scalera, mais c'est vraiment sympa comme dessin, c'est très dynamique.
Moi par contre je déteste son Bruce Banner.
Franchement,
il est méconnaissable comparé à d'autres séries, quand tu le vois juste avant dans Avengers 14, où là tu reconnais Bruce Banner. Là franchement, Bruce Banner, on m'aurait pas dit que c'était lui, je n'aurais pas reconnu le personnage.
Bah ouais, c'est un mec lambda dans une combinaison, quoi, c'est un mec brun dans une combinaison. Non, c'est vrai, c'est pas faux. Par contre, c'est très dynamique, hein. Les bastons sont vraiment super dynamiques, la mise en page est vraiment bien foutue, Daredevil à la classe. Non, c'est vraiment joli, c'est très anguleux, mais très joli, et puis c'est super drôle. Il y a une page qui m'a fait totalement mourir de rire, quoi. Ce team-up Daredevil Hulk est assez excellent.
Il y a la fin quand même.
L'ennemi
qu'on voit apparaître sur la dernière page, qui n'est pas un ennemi classique ni de l'un ni de l'autre, moi j'ai envie de voir la suite.
Tout à fait, un ennemi assez original. Qui ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, je trouve, mais je sais pas pour la suite. En fait, j'ai toujours l'impression avec Hulk qu'il nous crée pas une trame de fond, quoi. Depuis le début de son run, il nous a pas. Mais une trame de fond. La trame de fond, c'est Hulk, qui est l'agent du SHIELD.
Il nous fait exactement ce qu'il nous a fait dans Daredevil, c'est-à-dire qu'il l'oppose à des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir opposés à Hulk. Et donc, du coup, ça change un petit peu la donne, et on n'est plus dans le traditionnel Abomination, le leader, etc. On voit d'autres choses.
Ah, c'est clair.
Il y reviendra, parce qu'il a dit qu'il y reviendrait, mais pas tout de suite. Pour le moment, il se laisse un petit peu la porte ouverte à faire d'autres histoires, et c'est pas plus mal, ça change un petit peu du traditionnel Hulk, qui de toute façon a bien vécu. La preuve, les séries ne se vendent pas assez, en tout cas pour continuer.
En tout cas, c'est ce qui est bien avec Hulk, c'est que c'est vraiment léger à lire.
Oui.
Voilà, ça a pas de... Et pour le moment, c'est à mon avis l'épisode que j'ai le plus apprécié, parce que j'ai pas trop aimé l'arc avec Walt Simonson. Crie au scandale, je t'en prie, Steve.
Non, j'ai déjà crié la semaine dernière, le mois dernier.
J'avais bien aimé le premier arc, enfin la fin du premier arc qui m'avait l'air de relever le truc. Le deuxième arc m'avait un peu déçu parce que je trouvais pas trop d'intérêt au truc. Et là, ça, là, j'ai trouvé ça vraiment funny. Voilà.
Donc,
Bah donc c'est un bail.
pareil pour
C'est
moi.
un bail, mais c'est vraiment, faut savoir à quoi s'attendre, quoi. Il n'y a pas de, y a pas de grosse embrouille, super, y a pas de gros fil rouge, quoi. Mais c'est vraiment plaisant à lire, quoi.
Bah, il y a surtout cette page, hein, comme tu l'as dit, cette page très drôle de l'entrée dans le bar, qui vaut l'achat du comic.
Ouais, c'est génial. Ouais.
Allez, on va passer à la suite. On va rester dans l'univers Avengers puisque c'est la sortie du 9e épisode d'Uncanny Avengers. C'est Sam qui a perdu au moins 2 heures à lire cet épisode.
Pas autant, pas autant. Comme je disais en off à Steve, comme je suis en train de me relire les épisodes, enfin les grands épisodes de Chris Claremont, cet épisode m'a paru léger en comparaison. C'est une douce marche à la campagne comparé à Claremont, parce que Claremont, il faut 20 minutes hein, par épisode. Mais
Enfin, quand
bien
tu
20 minutes.
compares à
Hein.
ce qui est sorti cette semaine chez Marvel, notamment Age of Ultron, celui-ci, il me paraît être un roman complet à lire, quoi. T'as l'impression de
Voilà.
lire Guerre et Paix.
C'est très dense en fait, effectivement. C'est plus un épisode de transition parce que par rapport aux épisodes précédents, donc on est toujours dans cette saga écrite par Rick Remender et dessinée toujours par Daniel Acuna, avec l'arrivée en fait des jumeaux Apocalypse. Donc ils se sont déchaînés dans les épisodes précédents avec ben, pas mal de destruction un peu partout. On va éviter de spoiler quoi, mais disons que c'est assez majeur. Et donc là. Je vais pas dire que Remender nous permet de reprendre notre souffle parce que effectivement il y a beaucoup 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 de textes et notamment tout un passage entre Rogue et Scarlet Witch où en fait Remender revient sur toute cette polémique qu'il y avait eu sur le discours d'Havok ne m'appelez pas un mutant, rappelez-moi juste Alex qui avait suscité pas mal de controverses aux États-Unis. Donc il revient là-dessus, il nous fait ça sur 3 pages.
Ah,
C'est une.
c'est la scène d'entraînement, genre
Ouais.
salle des dangers, la plus lente de l'histoire.
Oui, surtout que ça, en fait, ça devient comique en fait cette scène à un moment puisque Rogue et Scarlet Witch sont au premier plan et à l'arrière-plan on voit en fait tous les autres Avengers qui sont en train de s'entraîner, qui ont décidé de s'en foutre en fait.
Oui, puis il faut voir contre qui il s'entraîne en plus. C'est très
Oui,
drôle, quoi.
contre Spider-Man, contre Docteur Octopus, contre en fait toute une rangée de
Contre les
trucs.
Sinister Six, tout simplement.
Voilà, oui.
C'est ce qui est énorme d'ailleurs, tu vois les Sinister Six passer dans une série moitié Avengers, moitié X, tu comprends plus rien. Mais c'est drôle.
Oui, donc toute la scène est amusante, mais il faut bien 5 bonnes grosses minutes pour tout lire. Un épisode qui ne se résume pas à ça, heureusement. On a d'un côté, ben, comme je l'ai dit, les jumeaux Apocalypse dont on voit qu'ils passent à la phase suivante de leur plan. On voit pourquoi ils se sont mis à, on peut le dire parce que ça remonte à 2 épisodes précédents, à tuer des Célestes. Mais vraiment parce qu'ils cherchent un élément bien précis, et pas que sur Terre, ailleurs dans la galaxie. On voit également en fait ce dont on attendait ce qu'on attendait depuis longtemps, c'est-à-dire les Vengeurs découvrir ben, les actions de Logan dans X-Force, et tout ça véritablement exploser. On voit ben, des camps se former au sein des Vengeurs entre ceux qui veulent expulser Logan et ceux qui ben, préfèrent rester unis le temps de faire face à la menace actuelle, parce qu'il y a quand même plus urgent. Et
Logan d'ailleurs,
l'issue.
qui est habillé dans un superbe survêtement jaune avec un petit symbole Avengers, on dirait un survêtement de Star Trek,
Ouais.
honnêtement. On dirait un costume de Star Trek, quoi. Je sais pas,
Ouais.
Daniel Acuna a
Petit
dû
hommage.
s'amuser.
Oui. Et bah, je vais pas révéler la fin, même si en fait, c'est ma seule déception, c'est que la dernière page, ça aurait pu être une grande révélation si on ne l'avait pas spoilé il y a des mois.
Bah oui, mais
C'est.
de toute façon, c'est Marvel, ça, hein.
Voilà, c'est vraiment dommage. Leur épisode aurait eu beaucoup plus d'impact sans ça. Sinon, dans l'ensemble, un bon épisode. Prenez-vous bien un bon quart d'heure hein, pour le lire quand même.
Moi, je dirais plus que ça, même.
J'ai été quand même un peu déçu par Akuna sur certaines pages, notamment vers la fin. J'ai l'impression qu'il a un peu rushé, alors que les pages du début sont quand même assez splendides. Les premières pages, je les ai trouvées bien peaufinées, alors que sur la fin, on voit, ben, par exemple, qu'il y a des pages ou des cases où il n'y a pas de décor. C'est vraiment écran blanc. Donc.
Ouais, mais comme ça reste une scène de dialogue à l'intérieur de l'Avengers Mansion, c'est pardonnable, on va dire.
Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y avait des détails qui étaient moins.
Oh
Voilà,
bah,
moins travaillés,
il y a des
moins.
cases où ils n'ont pas de visage. Tu
Voilà.
regardes, il y a une case notamment où presque aucun Avenger, ils sont tous sur la même case, mais il n'y a aucun visage de dessiné. Tu vois les contours, mais tu vois pas l'intérieur du visage.
Voilà. Donc c'est pour ça que je me dis. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont besoin d'un autre dessinateur pour l'épisode 11 ou 12, je crois, de la série. Je crois que c'est Laroca qui prend l'épisode 12 en charge, donc c'est peut-être aussi pour ça. Donc, pour moi, quand même, un bon épisode.
Ouais, bah bon épisode aussi, je suis entièrement d'accord. Il est très long à lire, hein, on n'insistera jamais assez là-dessus. Bah disons que dans le marché actuel, il est très long à lire.
Voilà, surtout comparé à Edge machin.
Et c'est surtout un épisode qui, si vous n'avez pas pris Uncanny Avengers, vous permettra de prendre le train en marche. Il se passe énormément de choses. Il y a beaucoup de choses de dites, normal vu qu'il y a énormément de dialogues, mais ça permet aussi de faire le point sur la série. Ceux qui n'auraient pas pris le train en marche peuvent le prendre à partir de cet épisode-là et arriver à comprendre l'ensemble, puisque Captain America a le message qu'on attendait qu'il ait depuis déjà quelques épisodes. Donc voilà, tout est raccroché, tout est compris maintenant et on peut avancer vraiment sur l'histoire qu'avait prévu Terry Mender. Bon épisode, voilà. Du grand comique. C'est comme ça qu'on doit faire des comiques.
C'est une bonne saga en cours.
Non, mais c'est comme ça qu'on doit raconter une histoire, surtout.
Vous donnez
Donc,
quelque chose à lire, oui.
voilà. Encore une fois, un très bon épisode de Remender, Uncanny Avengers qui ne cesse de s'améliorer mois après mois. Après l'immense déception du premier arc.
Je vais pas dire immense déception, disons que c'était pas incroyable.
Oh, comment je te trouve mou? Ah oui, non, mais je sais pourquoi tu es mou. Tu te gardes toute ton énergie pour la fin. Donc, un gros bail, Sam.
Un bail pour moi, un
Un
bon
bail.
bail.
Un bon bail, pareil pour moi aussi. Et on va continuer avec le X-Factor 258, tu gardes la main.
Oui, et on va tout de suite dire que c'est un excellent bail aussi. Donc toujours Peter David au scénario, Leonard Kirk au dessin. On est toujours dans donc deuxième partie de X-Factor The End où le scénariste en fait s'intéresse à un membre en particulier de l'équipe et à son sort, à son avenir en fait. Et là c'est le personnage de Rain qui est au centre des choses. Je peux pas trop en dire en fait puisque la décision qu'elle prend dans cet épisode est très liée à la conclusion de l'arc précédent où il lui arrive quelque chose de très très important. Voilà, sa vie est profondément bouleversée. Et peut-être pour lui demander conseil, en fait, elle va voir le double prêtre de Maddox, qui fait son petit retour, et qui va lui donner une nouvelle direction. Voilà. On va pas en dire plus, mais c'est vraiment très très bon. Moi, j'ai trouvé l'épisode bien bien mené et parfaitement en raccord avec le personnage.
On sent que Peter David est en train de préparer son départ et il décide voilà, de mettre un dernier coup pour les personnages avant de les lâcher définitivement. Et c'est bien, c'est que finalement, au vu de ce que tu dis, il n'a pas décidé de ranger les jouets et de les remettre à la même place où il les avait trouvés, mais de leur donner une évolution
Oui, disons que c'est une
libre.
direction logique pour la vie de Rain.
Libre après au scénariste suivant
Voilà
bah
de.
de reprendre de là, quoi. Et il n'aura pas rangé comme malheureusement beaucoup de scénaristes font, c'est-à-dire on fait des évolutions et au dernier épisode de la série, on défait tout pour que bah, le suivant puisse reprendre les personnages classiques.
Oui, au stade zéro.
Ouais, c'est bien ça. Donc gros bail.
Gros bail aussi.
On va passer à la partie Ultimate, la partie spécialisée à Bruno, puisque c'est lui qui va nous
Oui.
parler du Ultimate numéro 26.
Oui, c'est Joshua L. Fialkoff au scénario et Carmine DiGio Domenico au dessin.
Petit peu de
Deuxième
mal.
partie de l'arc Disassembled. Voilà, n'en déplaise à Sam, moi j'avais beaucoup aimé le premier numéro de cet
Ah non, c'était
arc.
une bouse.
Voilà, et donc il me tardait de lire la suite, et donc je me suis jeté dessus. Et c'est toujours aussi bon, j'aime vraiment beaucoup la direction que prend le titre. Donc on
Précisons que
a
Bruno a aimé Age of Ultron, hein. Age of Ultron 10.
on en
Ceci
reparle à la fin.
en explique beaucoup de choses.
On en reparle à la fin. Je dis pas que j'ai aimé, je dis qu'il y avait des choses intéressantes dans Age of Ultron. Donc Ultimates, on avait un groupe de méchants qui s'est formé, mené par la version Ultimate de Kang, une version féminine dont on nous cache encore l'identité, même
On sait
si on
très bien qui
peut
c'est,
faire
hein.
quelques suppositions sur son identité. Parmi les autres méchants, on trouve Hulk, on trouve Reed Richards et Quicksilver qui se sont associés et qui, grâce à l'aide du gant de l'infini et de plusieurs gemmes de l'infini, ont réussi à renverser les Ultimates et toute la totalité du Shield. Donc, dans ce numéro, on voit en fait quel est leur but. Ils font ça pour le bien de l'humanité, puisque Reed Richards explique qu'il veut se racheter de ce qu'il avait fait avant et il décide d'utiliser les pouvoirs du gant de l'infini pour bah, soigner tous les maux du monde, donc à savoir arrêter les guerres, faire en sorte que tous les gens puissent avoir de quoi manger, annuler les dettes de tous les pays qui étaient endettés, enfin faire une sorte, vivre dans une sorte d'utopie. Donc ils assemblent leur intellect pour pouvoir pour ce but. Et en fait, au bout de 4 pages, on voit qu'en 48 heures, ils ont presque réussi à rendre le monde, à le rendre dans un meilleur état qu'il n'était avant.
Ça me rappelle un
Bon.
event très récent qui
Oui.
s'appelait AVX.
Oui, moi
Je
aussi.
sais pas.
Exactement. Il y a des petites choses
Bon,
qui
c'est pas une
sont.
nouveauté comme plot, mais disons que ça a été fait il y a vraiment pas longtemps dans l'univers classique, quoi.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais
Une fois de plus.
c'est assez bien écrit. À côté de ça, nous avons donc les Ultimates qui se sont pris un gros coup derrière la tête dans le numéro précédent. Certains personnages ont été capturés, comme Captain America. Et on voit un peu quel est le plan de Tony Stark pour essayer de sauver Captain America et les autres. Très malin. Enfin, une confrontation qui était attendue depuis très longtemps entre Susan Storm et Reed Richards, avec l'intervention et le retour de Ben Grimm, qui avait changé un petit peu de condition à la suite de la trilogie Ennemi et compagnie. C'est vraiment bien écrit. J'ai bien aimé cette baston. C'était assez intéressant. Et surtout, ça se développe beaucoup tout ce qui concerne Tony Stark et la tumeur en fait qui est à l'intérieur de lui et avec lequel il converse depuis plusieurs numéros maintenant. Il y a un bon
Il
twist à
parle à
la
sa
fin.
tumeur?
Ouais, il parle à cette tumeur. En fait, il a développé un pouvoir. C'est la tumeur qui s'est développée en lui et une sorte de deuxième conscience qui est hyper intelligente et qui est une sorte de Tony Stark enfant. Et c'est un peu barré, mais là on comprend enfin pourquoi il y a cette tumeur est comme ça et c'est assez malin. Donc bon gros twist à la fin, j'ai adoré, un super bon numéro et moi j'ai ma petite idée sur l'identité de Kang et bon, on va pas spoiler. Donc pour moi c'est un bon gros bail et voilà. Je suis très content de ce que fait l'univers Ultimate en ce moment.
On y reviendra à la fin de l'émission aussi, lors de Age of Ultron. On termine notre partie Marvel avec la sortie du Ultimate Spider-Man numéro 24, et c'est Sam qui l'a lu.
Oui, toujours écrit par Brian Michael Bendis et dessiné par David Marquez. David Marquez qui continue à très bien s'en tirer au niveau du dessin. C'est superbe, moi je trouve. D'ailleurs, c'est à peu près le seul compliment que je ferai sur cet épisode.
Que je n'ai pas lu, je précise, hein, parce que en défenseur de
Ben, alors,
Ultimate.
autant le dire, je pense que mon esprit doit souffrir de préjugés maintenant à l'égard de Bendis, ce qui fait que je vois tout son travail d'un point de vue très négatif, ce qui a forcément influencé la manière dont j'ai lu cet épisode, puisque je l'ai lu après Age of Ultron, là. Et
Le troll.
donc on reprend là où on s'est arrêté l'épisode précédent avec l'introduction de la version Ultimate de la cape et l'épée, donc c'est
Cloak and Dagger.
Cloak and Dagger Univers Ultimate, donc avec toujours Miles Morales qui est coincé dans un restaurant avec son père et qui passe la moitié de l'épisode à dire non, je ne suis plus du Spider-Man, foutez-moi la paix. Le reste de la moitié de l'épisode c'est consacré aux origines de Cloak and Dagger dans l'univers Ultimate et il doit y avoir 3 pages de baston ici ou là. Voilà, fin de l'épisode. C'est intéressant, hein?
D'accord. Donc on en conclut que c'est un gros pass.
Je vais pas dire que c'est un gros pass, le problème c'est que j'aurais préféré que les origines de Cloak and Dagger soient résumées en 5 pages, voire 2, parce que traditionnellement c'est comme ça qu'on fait dans tous les comics, hein. Voire, on peut même résumer les trucs en une page et c'est pas un problème.
Sauf quand on demande à un maître de la décompression.
Voilà. Que parfois le combat, il y a des planches personnellement où j'ai eu beaucoup de mal à trouver le sens de lecture. Ça c'est du Bendis tout craché et c'est très sincèrement c'est très énervant. À la lecture, tu te demandes mais quelle bulle je dois lire en premier? Quelle case, dans quel sens, l'ordre chronologique, l'ordre des aiguilles d'une montre, enfin c'est franchement exaspérant au bout d'un moment.
Ça peut être un effet de style sur une case ou sur une page, mais quand c'est répété, c'est perturbant la lecture et justement ça en fait un mauvais
Ben,
comique puisqu'il y a un
ça,
mauvais
disons que ça,
storytelling,
moi
quoi.
ça me fait sortir du truc. Voilà. C'est-à-dire, à un moment, un mot comique, ça doit proposer une certaine immersion dans l'histoire. Et qu'à un moment, tu dois vraiment commencer à réfléchir sur, non pas à l'histoire, mais attends, dans quel sens je dois le prendre, là, 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 tout de suite, moi je sors. Hein. C'est.
Bah, tout dépend comment c'est fait, avec quel but, et malheureusement avec Bendis, je suis pas certain qu'il y ait un but vraiment derrière.
Là, c'est
En
vraiment
tout cas,
de
pas un but
l'artifice.
artistique, quoi.
Pour moi, c'est de l'artifice. Très sincèrement, voilà. Donc c'est un check-it.
Tu quittes? Oh
Voilà.
bah tu es bien gentil.
Je suis gentil parce que
Non
l'épisode
mais
est
c'est
qualité.
étonnant de ta part, c'est surtout ça.
Je dis un check-it parce que l'épisode est qualité. Les personnages de Cloak and Dagger, les nouvelles versions, je les trouve intéressantes. C'est d'ailleurs ce qui sauve un peu l'épisode. Mais franchement, là, il faut espérer qu'au 25, il se bouge un peu le cul, hein, parce que. Ça fera quand même deux épisodes passés sur un vilain de quatrième zone. C'est bon, le retour de Bombshell, tout le monde s'en fout, hein.
Ok, on va passer maintenant à notre partie 1D et on va commencer avec Flo qui nous parle d'un retour vraiment attendu. C'est la suite de 100 Bullets avec la sortie du numéro 1 de Brother Lono.
Tout à fait. Brother Lono numéro 1, scénarisé par Brian Azzarello, dessiné par Eduardo Risso avec une sublime couverture de Dave Johnson, colorisé par Madame Mulvihill, j'ai oublié son prénom, et lettré par Claire Robbins, c'est-à-dire, et édité par Will Dennis, c'est-à-dire l'équipe originale de 100 Bullets, plus de 4 ans après la fin de la série, qui s'est terminée avec son numéro 100 en avril 2009. Alors, comment parler de Brother Lono pour ceux qui n'ont pas fini 100 Bullets? C'est assez facile parce que c'est pas vraiment la fin, c'est pas vraiment la suite, pardon, de 100 Bullets. C'est ça parle de Brother Lono, ce qui veut dire que Brother Lono est vivant. Voilà, je ne peux en dire plus, mais en gros, Brother Lono, il est vivant. Ceux qui ont fini la série comprendront. Il est vivant, mais il en a chié dans sa vie. Enfin, surtout sur la fin de 100 Bullets. Parce qu'il en a surtout fait chier beaucoup de monde et tué beaucoup de monde. Pour info, donc Brother Lono, c'est un des Minutemen de 100 Bullets. Et c'est le Minuteman probablement le plus fou, le plus cinglé, celui qui utilise les méthodes les plus extrêmes, qui a toujours sa chemisette à fleurs et qui est capable de se prendre des balles et de, enfin bref, il est très 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 dur. Voilà, il s'est pris pas mal de balles et il s'en est tiré. On le retrouve donc c'est Capitulo 1, El hombre respira. C'est le nom du numéro. Ça se passe au Mexique. Donc, Brother Lono est au Mexique. Je sais pas où.
Pour apprendre la samba.
Pas vraiment.
Pour trancher des Mexicaines.
Non, mais ce qui est marrant, c'est que c'est pas Brother Lono qui est au centre de ce numéro. Et on suit un gang qui s'appelle les Twin Towers en français. Las Torres Gemelas en espagnol. Un gang de Mexicains plutôt hardcore, qui dit de la drogue, etc. Tu sais, avec, vous savez, les dont ils sont tous tatoués, ils ont des gros tatouages partout, des signes en signe d'appartenance, etc. C'est vraiment assez hardcore. Et puis ça s'ouvre tout simplement sur une scène de torture d'un ex-membre de ce gang qui visiblement était une taupe pour la DEA. Et donc il le torture pour en gros savoir qui sont ses contacts à la DEA, etc. pour pas se faire niquer, quoi. Autant vous dire que c'est plutôt putain de violent et que
putain c'est de violent pas... carrément.
Ah non, non, mais c'est pas conseillé à tout le monde. Très honnêtement, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Et donc on voilà en gros un mec qui se fait torturer et qui va lâcher ce qu'il sait. Et après cette scène assez terrible, on retrouve Brother Lono en prison. On le fait sortir. On fait sortir aussi son coéquipier, enfin son camarade de cellule, qui est un petit, qui a l'air d'être un petit dealer de merde. Qui il se trouve que bah c'est lui qui s'est fait dénoncer par le gars qui se faisait torturer. Et donc voilà, en gros, on sait pas trop où ça va, si ce n'est que Brother Lono. On a l'impression qu'il est tout blanc, qu'il s'est refait une vie. Il a l'air de travailler pour une congrégation, pour une église au Mexique. Il a l'air d'être tout blanc, sauf qu'en fait, on ne sait pas. Et peut-être que via les affres de ce gang de dealers ultra-violents, peut-être que finalement, Brother Lono, c'est pas tant que ça. On ne sait pas vraiment. Au bout de ce premier numéro, qui est un numéro d'ailleurs, pas un numéro double, mais un numéro de 30 pages de dessin, à 4$, à la fin, on ne sait pas quoi penser de Brother Lono, et voilà, on sait que ça va parler de ce gang, on sait que ça va parler de Brother Lono, on sait que ça va parler d'une église et d'un prêtre, et je ne peux pas tellement en dire plus, parce que je voudrais pas vous gâcher le plaisir. Sachez que si vous n'avez pas fini 100 Bullets, vous pouvez le lire. parce que, en tout cas ce premier numéro, je sais pas ce que ça va faire par la suite, parce que c'est vraiment pas lié à 100 Bullets. C'est vraiment centré sur les aventures de Brother Lono. De Lono, il s'appelle. On va apprendre pourquoi il s'appelle Brother Lono. Voilà, c'est excellent. La mise en scène le duo Azzarello Risso est incroyable. Si vous avez lu un petit peu 100 Bullets, vous savez que c'est assez incroyable la mise en scène, le découpage des cases, la manière très cynique qu'a Azzarello dans son script de faire parler des gens pendant que Risso dessine des scènes tout à fait autre part ou tout à fait anodines. Juste un exemple, pendant la scène de torture qui se passe dans la pièce à côté, il y a des membres du gang qui jouent à la PlayStation. Voilà, tranquillement. Et c'est terrible. Il y a ce côté-là très très puissant dans le duo Azzarello Risso qu'on retrouve complètement ici, c'est sublime et voilà. Et donc c'est absolument génial. Et voilà.
Donc c'est un bail.
C'est un énorme bail.
Ton voilà. Coup de cœur de la semaine?
C'est j'ai pas vraiment. Oui, c'est mon coup de cœur. Ouais. Voilà. Désolé d'en avoir dit beaucoup, mais c'est vraiment super. C'est vraiment top.
On va passer à la suite. On va maintenant aller chez Dark Horse avec la suite et fin de Edgar Allan Poe's The Fall of the House of Usher. Un titre très long, beaucoup trop long, de Richard Corben. C'était une mini en deux. On avait lu le premier épisode le mois dernier. Voilà, enfin, la fin de la mini. Donc, Richard Corben fait tout hein, dans cette série. C'est un mélange de deux histoires d'Edgar Allan Poe, le mélange de la chute de la maison Usher, hein, comme son indique, mais aussi du portrait ovale. Et on va voir la fin de la mini, donc je vais pas trop raconter. Si vous connaissez déjà l'histoire, bon, vous savez à quoi vous attendre, même s'il y a quelques petits twists, puisqu'il y a deux histoires de mélanger. Si vous connaissez pas, à vous de le découvrir. À savoir que ça reste aussi bon que qu'était le premier. On est encore plus dans le crade, dans le malsain, le torturé. C'est vraiment excellent. On a un très très bon Richard Corben, des ambiances comme je l'ai dit très malsaines tout au long de cet épisode. On n'a qu'une envie, c'est que ça se termine cette histoire tellement ça devient glauque. Mais en même temps, on n'a pas envie que ça se termine parce que c'est bon quoi. Donc il joue vraiment sur cette dualité. On n'en peut plus et en même temps on en veut encore. Donc énorme coup de cœur pour cette mini, une petite mini en deux qui ne vaut pas très très cher. C'est assez facile à se procurer. Je suis pas sûr qu'il y aura un TP parce que deux épisodes, faire un TP de deux épisodes, ça me paraît un peu juste. Essayez de vous les procurer si vous les connaissez pas, si vous avez envie de découvrir du Edgar Allan Poe mis en image par Richard Corben, ce qui vaut quand même le coup. Donc gros bail pour ce deuxième épisode. On va continuer avec Bruno qui va nous parler d'un reprint, Dark Horse fait dans le classique. C'est Captain Midnight numéro 0.
Oui, au scénario, nous avons Joshua Williamson, et au dessin, nous avons Victor Ibanez pour les 16 premières pages, et Pere Perez pour les pages 17 à 24. Donc, effectivement, il s'agit du reprint des numéros qui étaient déjà présents dans Dark Horse Present.
Les numéros classique 18 de Dark Horse.
Ouais, c'est ça, les numéros 18 à 20.
Dès que vous voyez un numéro 0 chez Dark Horse, c'est un reprint voilà. De Dark Horse Presents.
Et ça permet comme ça aux gens qui sont passés à côté de se mettre à cette série, puisqu'il va y avoir un ongoing qui commence très bientôt.
Mais rappelons juste que Dark Horse Presents, c'est une série d'anthologie avec plein de petites histoires, et que en plus, bon, c'est assez difficile à trouver, les épisodes sont assez chers, parce que ça fait une centaine de pages à chaque fois, donc
ouais,
ça permet d'avoir... Ouais, ça permet d'avoir juste l'histoire qui nous intéresse à un coût plus modique.
Ouais, ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc du coup, ça m'a permis de découvrir ce personnage de Captain Midnight, qui est un personnage vraiment très ancien. À la base, il a été créé pour un show radio dans les années 30. Donc, c'est un vrai vrai vieux perso.
Personnage pulp.
Ouais, c'est ça, carrément pulp. Je crois qu'il a été chez Fawcett après en comics. Et là, le personnage revient dans une histoire de voyage dans le temps, encore une fois, puisque le personnage de Captain Midnight, qui est une sorte de savant capable de voler grâce à des ailes qu'il a construites, qui est un héros de la Seconde Guerre mondiale, se retrouve pris dans une tempête dans le Triangle des Bermudes et réapparaît à notre époque en 2013. Donc voilà, façon un peu Captain America, on le voit qui lutte un petit peu pour comprendre un peu ce qui se passe et dans quelle époque il est. Mais surtout en fait, la mission dans laquelle il a disparu dans le Triangle des Bermudes est une mission top secrète pour laquelle il y a eu très peu d'infos dans l'histoire. Et a priori, il y a des choses très importantes qui se sont passées. Et le gouvernement américain, justement, enquête sur ce qui s'est passé. C'est plutôt bien écrit. J'ai trouvé les dessins vraiment efficaces. Un petit peu d'humour, déjà une bonne dynamique. Ce qui est intéressant, c'est un petit peu comme dans Captain America, on revoit les personnages qui étaient proches de Captain Midnight, qui eux ont vieilli, et du coup on voit un peu ce qu'ils sont devenus. On a à la fois des mélanges de flashbacks et de choses qui se passent dans le présent. Il y a une galerie de personnages assez chouette, dont une méchante qui est devenue qui était une ancienne nazie, qui est devenue chef d'une grande corporation. Électronique qui a réussi à faire oublier son passé nazi et c'est très kitsch mais en même temps c'est plutôt cool donc voilà j'ai trouvé ça efficace, sympathique à lire et voilà pour moi c'est un check-it plus j'irai voir le numéro suivant avec vraiment beaucoup de curiosité.
Bah, le premier numéro, en fait.
Oui, voilà, le numéro 1.
Le deuxième premier numéro, on va dire.
Ouais, à savoir que bah, là, en ce moment, justement, chez Dark Horse, ils sont en train d'introduire beaucoup, beaucoup de personnages pulp. Il me semble qu'il y a un futur gros crossover qui s'annonce avec la rencontre de tous ces personnages pulp bientôt. Donc,
Oui, on en avait déjà parlé dans les Weekly News.
voilà.
Allez, on va terminer notre section indé avec Flo qui va nous parler d'un grand retour, là encore, une chose que l'on attendait depuis longtemps, X-Files saison 10, numéro 1.
Oui, ça fait quoi? Pas 10 ans, mais presque. Oui, ben oui, c'est le premier épisode de la nouvelle saison qui continue en comics
La
de
vérité est
X-Files,
ailleurs.
Avec un plot de Joe Harris. Donc Joe Harris qu'on voit actuellement sur la série Great Pacific chez Image,
Très bonne série.
Qui est sympa, mais que j'ai arrêté au bout du numéro 6, mais qui est pas mal. Avec Chris Carter, donc créateur de la série. C'est écrit par Joe Harris, dessiné par Michael Walsh, que je ne connais pas, et colorisé par Jordi Belair, que là, on connaît pas mal.
Tout le monde connaît.
Alors, si on connaît pas, bon, il y a un petit paragraphe pour nous expliquer un petit peu ce qui se passait à la fin de la saison 9 de X-Files. En gros, Mulder et Scully ont une identité secrète. Enfin, une nouvelle identité. Scully travaille comme médecin et Mulder, je sais même plus ce qu'il fait, mais
il est magicien.
Il est voilà, il est magicien, tout à fait, il est magicien et il essaie d'écrire ses mémoires. Ça se passe quelques années en fait après la fin de la série télé. Je crois que ça se passe 4 ans, il me semble. J'ai lu
Après le
dans des
deuxième
interviews
film
que ça.
aussi, je crois. Hein.
Ouais, ça se
Oui.
passe pas le.
Oui.
Et donc, c'est de là ce couple qui a une vie bien tranquille. Il y a Skinner, le fameux directeur du FBI, qui va débarquer chez eux et leur expliquer qu'il y a eu un gros bug, qu'il y a une grosse attaque sur les serveurs du FBI et qu'il y a probablement des infos très secrètes qui ont été piquées. Et que peut-être ça pourrait les mettre en danger, et que voilà, qu'ils sont inquiets et tout. Et après, on voit qu'il y a des trucs un peu chelous avec des gens capuchonnés, qui en ont après Skinner, après Scully, voilà. Une genre de machination un peu étrange et chelou, de gens surnaturels, qui ont l'air de pouvoir influencer. La psyché, des gens. Voilà. Pour le dessin, c'est du Michael Lark en un peu moins bien, avec des fonds un petit peu vides parfois. Mais sinon, si vous aimez le style Michael Lark, par exemple, c'est très proche et c'est sympa à regarder, quoi. C'est assez pulp.
Ce qu'il y a d'intéressant, c'est surtout qu'on reconnaît très facilement les
Ah
personnages.
ouais, ah oui, ça c'est clair, ils sont très très bien refaits. Mulder, est super bien, même c'est dans ses expressions et tout, on retrouve un peu l'acteur, quoi.
Ouais, mais c'était pas toujours le cas de la précédente série, pardon, chez Tops,
Je
qui
connais pas
sortait dans
du
les
tout.
années 90. Il y a des fois les personnages, bon, on savait que c'était eux parce qu'on les reconnaissait, notamment Scully de par sa coiffure, sa couleur de cheveux, etc. Mais le visage, c'était pas vraiment ça. Là, c'est vraiment très proche des acteurs et déjà, ça aide à l'immersion.
Ouais, en tout cas, c'est très mystérieux, voilà, il y a une menace, c'est mystérieux, mais je n'en sais pas plus. Mais
Bah,
c'est assez. Oui, vas-y, c'est.
c'est le début d'un arc en 5, hein, donc cette histoire va durer 5 épisodes. Un arc qui va s'appeler Believers, encore joué bien sûr
Forcément.
avec le titre. Oui, bah comme tu l'as dit, hein, cette espèce de secte, puisque bon, hein, des gens encapuchonnés, ouais, ça fait tout de suite penser à une secte, ont l'air d'en vouloir vraiment au bureau des affaires non classées. En tout cas, ce que l'on peut voir, est-ce qu'ils ont frappé d'autres personnes avant, on sera sûrement dans les prochains épisodes. Et pour contenter tous les gros fans, le prochain épisode, on nous tease les Lone Gunmen.
Oh, les trois Stooges.
Donc franchement, non, c'est du bon. Ça fait vraiment plaisir de retrouver X-Files saison 10 et j'espère que ça aura le même succès que Buffy saison 8 puis saison 9 et qu'on va en avoir encore très longtemps parce que on a vraiment, enfin moi j'ai vraiment ressenti l'atmosphère du show quoi.
Ah tout à fait, ouais ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est bien écrit et c'est bien transcrit. Non non, tout à fait.
Il manquait que la musique du générique, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Tu te la chantes dans la tête ou tu te la mets en fond. Ouais. Tout le monde a un vieux MP3 qui traîne. Non, puis même, ça commence avec une scène. Alors, moi qui suis pourtant pas fan, hein, de ces trucs, on commence en plein cœur de l'action et puis on te fait le petit flashback. Là encore, il n'était pas trop long. Donc, je veux dire, déjà, dès la moitié de l'épisode, on a récupéré le moment de l'intro. Et la scène d'intro est vraiment très cinématographique, très bien amenée, très bien mise en scène. Non, franchement, c'est du bon, quoi.
Ouais, c'est vrai. C'est solide. C'est très solide.
Bon, pour tous les fans du show, hein, bye, quoi. Pour les autres, je conseille pas.
Bah, ceux qui n'ont pas aimé X-Files vont pas se mettre à aimer là parce que c'est vraiment dans la continuité quoi.
C'est vraiment un produit calibré pour les fans uniquement.
Tout à fait.
Voilà, donc bye pour toi aussi. Hein,
ouais, un bon petit bye, c'est vraiment sympa.
Allez, on va maintenant commencer la partie d'essai et on démarre avec le Animal Man de cette semaine, le Animal Man numéro 21. Toujours scénarisé par Jeff Lemire avec des dessins de Steve Pugh et de Francis Porte. J'arrive pas à lire son nom.
Portez-la,
merci. Alors, un épisode assez étrange dans par sa mise en scène, puisque ça va être un épisode Twitter. On a énormément de tweets qui apparaissent dans la narration, dans les dessins. C'est vraiment, ça donne un effet particulier. Ça rend la chose assez difficile à lire, finalement, je trouve. Puisqu'on va se concentrer sur tous ces petits tweets qui sont marrants pour certains, d'autres qui sont gonflants, mais enfin, c'est le jeu de Twitter, hein. Et on va suivre en parallèle l'action avec un Buddy Baker qui est bien sûr au fond du trou, qui n'en a absolument rien à foutre d'être nominé aux Oscars pour son film. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on lui foute la paix et qu'il puisse murger tranquille pour oublier la mort de son fils. Suite à un coup de fil de son agent, il va décider de repartir, d'essayer de se relever un peu et va enquêter sur des mystérieuses disparitions d'animaux qui sévissent à Los Angeles depuis maintenant presque 2 mois. Ça a commencé par des animaux de compagnie, il y a même des animaux du zoo qui ont été enlevés. Et là, on va virer dans le glauque le plus total, la violence extrême. C'est une scène dégueulasse. Ouais. Là, je sais pas ce que t'en as pensé, Flo, mais cette scène, elle était crado, quoi.
Ah oui, c'est très crade. Mais à la limite, faut pas trop en dire parce que c'est là où.
Ah bah, préparez-vous, faut avoir le cœur accroché quand même, hein.
Ouais, c'est clair, ouais. Bon, quand t'as lu Brother Lono avant, ça va.
Et puis, en parallèle, on voit Maxine. Maxine qui va de nouveau être en contact avec le Raid. Je vais pas en dire plus.
C'est comment Maxine Carnage.
Comment? Oh putain. Oh, celle-ci, elle est sortie du. Elle est sortie de nulle part, mais. Je les prends plein de gueule. voilà. Comment va-t-elle gérer d'avoir de nouveaux contacts avec le Raid? Comment ça va se passer? Justement, à vous de le découvrir. Très bon épisode. Franchement, j'adore.
Oh, c'est vrai. Ça aurait pu être mon coup de cœur de la semaine. Ça allait même avec Brother Leno. Non, pour revenir sur Twitter, j'ai trouvé ça très sympa, moi, la mise en scène avec les tweets. Déjà, c'est bien écrit, les tweets. Enfin, ça retranscrit vraiment l'ambiance de Twitter, en fait. Mm-hmm. Pour info, c'est vrai, c'est les tweets des comptes de soutien de fans de Buddy Baker, etc. Et puis, il y en a qui leur répondent en disant non, c'est de la merde, Buddy Baker. Enfin, c'est assez drôle. Et ça met en parallèle aussi le côté le monde de ce monde ultra connecté, parce qu'on le voit quand il sort, il décide de reprendre le costume et de sortir enquêter. Ou bah il y a des gens qui ont l'impression de l'avoir vu et du coup on voit les tweets des gens. J'ai l'impression d'avoir vu Animal Man, etc. Donc c'est vraiment sympa à lire.
Par curiosité, ils utilisent le terme Twitter ou ils ont inventé un nom?
Ils utilisent pas du tout le terme. Tu reconnais vaguement la mise en page.
Mais tu reconnais la mise en page et puis les termes.
C'est
en
truc
gros,
de
par exemple, Q-core. le dièse est remplacé par, je sais pas c'est quoi ce.
Un espèce de petit signe bizarre.
Je sais pas, c'est un nom, mais je sais plus le nom, mais en gros, ils ont remplacé le dièse, mais sinon, C'est, mais puis enfin c'est vraiment crédible quoi, on s'y croirait. Ça pourrait être Buddy Baker dans la vraie vie, il pourrait y avoir Animal Man et on s'y croirait quoi sur Twitter. C'est ça qui est, que j'ai trouvé vraiment bien foutu.
Quand je dis que ça retardait un peu la narration, c'est parce que dans la scène d'action justement, il y a ces tweets qu'on a tendance à lire et en même temps, on veut suivre l'action et mais c'est justement bien fait parce que ça perturbe la mise en scène habituelle, donc voilà, c'est l'effet réussi.
Ouais ouais, bah c'est l'effet Twitter hein, ça te fait chier parce que ça pop n'importe quel moment. Et le côté la partie de l'histoire avec Maxine est excellente quoi. Excellente. Oui. Essayez d'imaginer Maxine, nouvel avatar du Raid, donc c'est un peu la big boss vu qu'on a vu enfin pendant Rotworld que en gros Buddy Baker c'était juste un pis-aller en attendant la vraie la vraie boss quoi qui est Maxine. Et imaginez Maxine qui a quel âge, elle a 10 ans, 9 ans, 8 ans, 9
non,
ans.
Non, elle a à peine 5 6 ans, pas plus.
Ouais, elle doit avoir 6 ouais, 6 7 ans quoi. 6 7 ans qui essaie de se prendre pour la boss, c'est très drôle quoi. Un enfant qui veut donner des leçons.
Moi j'ai aimé son nom de super-héros par contre.
Ah oui.
Voilà. On va pas trop en dire pour vous laisser les surprises. En tout cas, c'est vraiment un très très bon épisode. Ça continue extrêmement bien Animal Man et c'est une très bonne idée de les avoir séparés entre Animal Man et Swamp Thing depuis les sortir la même semaine.
Ça n'avait plus de sens de toute manière.
Oui, ça n'avait plus de sens et puis au moins les très bonnes parutions d'essai sont étalées sur le mois.
Oui, tout à fait.
Notons quand même que cette semaine, en tout cas, DC a fait attention à pas sortir de trop trop gros titres. Ils savaient qu'ils avaient le rouleau compresseur et Joe Filtro en face. Rouleau compresseur en termes de vente. Hein.
Ah voilà. Oui, ça c'est sûr.
Donc bail.
Gros bail, très gros bail.
Pareil pour moi, on continue avec le Batman et Robin 21, renommé Batman et Batgirl. C'est Bruno qui nous en parle.
Oui, au scénario, Peter J. Tomasi, et au dessin, c'est Cliff Richards qui pour ce numéro. Donc ça change, hein. Déjà artistiquement, moi ça m'a beaucoup moins plu que les numéros précédents. Et puis au final, je trouve que Peter J. Tomasi là, du coup, il est un petit peu, il se répète. On sait que Batman va mal depuis la mort de Damian. Ça fait plusieurs numéros qu'on le voit confronter un petit peu toute sa famille pour voir où il en est. Et là, je commence à en avoir un petit peu marre en fait. Et surtout que là, je l'ai trouvé, c'était vraiment pas terrible au niveau des dessins. C'est correct, mais par rapport au précédent numéro, ça m'a vraiment choqué. Là, Batgirl, en fait, on voit les changements en fait qu'il y a eu dans sa vie depuis sa confrontation avec son frère. Elle essaye aussi un petit peu de voir avec Batman ce qu'elle pourrait faire pour l'aider à passer un petit peu son deuil. Ça met du temps. J'ai trouvé l'écriture lourde un petit peu, ils ont essayé de faire des effets de style par moment, mais ça, je trouve que ça passe un peu à côté. J'ai vraiment été déçu par ce numéro. Pour moi, c'est vraiment à la limite du pass. On peut vraiment s'y... Il y a 2-3 scènes choc, mais voilà, j'ai vraiment super déçu par ce numéro. Je sais pas ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu.
Sam, tu l'as lu toi aussi?
Oui, je l'ai lu. Pas vraiment d'accord sur le scénario. Je trouve que celui de Peter Tomasi fonctionne assez bien. Notamment, le seul reproche que j'aurais à faire, c'est qu'à un moment, on a un peu l'impression que c'est plus un épisode de Batgirl que de Batman.
Oui,
c'est
oui,
vraiment centré. C'est vraiment centré sur elle. J'ai bien aimé l'effet de discussion avec son père où en fait elle n'arrive pas à lui faire face. Personnellement, j'ai bien aimé. C'est surtout que ça fait miroir en fait à ce qui arrive à Batman. C'est surtout ça. C'est-à-dire lui-même n'arrive pas à lui.
Il faut qu'il ramasse ses couilles quoi, Batman là.
C'est-à-dire que lui-même n'arrive pas à parler à qui que ce soit et Batgirl traverse la même chose. Par contre, sur les dessins, je suis assez d'accord. Comparé à Patrick Gleason, on voit la chute, hein. Notamment dans le dessin des costumes, mais on voit que les effets de cap sont ratés, les trucs, en fait, tous les effets sont ratés. C'est limite costume de carnaval, quoi. De carnaval.
Ouais. Moi, je l'ai pas lu, mais c'est vrai qu'en même temps, faut penser que Tomasi est le seul à adresser vraiment cette perte. Hein. Les autres séries, ils ont un petit peu tous oublié et Batman est déjà passé à autre chose.
Mmh. Oui, mais là, maintenant, ça fait vraiment, factice là. Il faut absolument qu'il coltine un team-up avec un des membres de la Bat Family.
Ça sortait deux fois par mois, peut-être qu'on aurait moins ce sentiment que ça dure en longueur. C'est vrai que là, une fois par mois, si ça prend un arc en 5 ou en 6, ça dure 6 mois, ça fait très long, c'est sûr. Mais bon, il a quand même le mérite d'être le seul à adresser ça, puisque Snyder s'est barré dans le passé, et puis les autres séries s'en foutent. Donc,
Ouais, ouais.
C'est sûr, mais c'est, le propos change pas, c'est ça que je veux dire. C'est que par exemple, le numéro avec Frankenstein et Red Robin était clairement ça, au-dessus, malin. Quoi. Il était, oui, il était vraiment malin, très malin, il était très très bien. Ouais. Et à la limite, il disait vraiment quasiment tout de l'état déplorable de Batman. Là, ouais. Ça apporte rien de plus. C'est vrai que ça, on a l'impression d'avoir plutôt un épisode correct de Batgirl après Death of the Family, quoi. Voilà. C'est vrai que j'étais très déçu de ce numéro. Par rapport au précédent qui était plus au-dessus et qui était pertinent. Celui-là est pertinent, mais il est dans la redite et il parle beaucoup plus de Batgirl. Donc voilà, je suis assez déçu. Et on n'a pas fini, parce que le mois prochain, on parle... Oui, la couve est très sympa. Le mois prochain, on parle de... C'est Batman et Catwoman.
Catwoman, ouais.
Et il me semble que le mois suivant, ça doit être Nightwing, vu qu'on n'a toujours pas Nightwing.
Ouais, voilà,
et c'est la fin, voilà. Donc j'espère qu'il va un peu se renouveler, qu'il va nous profiter peut-être pour nous lancer sur d'autres choses, quoi.
Bah qu'il y ait enfin un fil rouge, quoi, parce que voilà. Finalement Batman et Robin c'est vraiment un titre bouche-trou pour combler certaines choses. Au départ c'était vraiment quelque chose à part dans les 7 voilà. Premiers numéros, le premier arc qui était vraiment excellent.
Oui, premier.
Et
même.
Après ça a été juste un bouche-trou, quoi. Même donc, s'il y avait des très bons numéros.
Vos notes au final, Bruno, tu l'as dit, passe.
Ouais, limite passe. Ouais.
Ouais, je suis limite passe, hein, c'est vrai. Je suis très déçu, c'est dommage.
Et Sam ?
Un check-it.
Check-it. On continue avec le Green Lantern New Guardians numéro 21. Nouvelle direction pour le titre. Nouvelle équipe, c'est Flo qui nous en parle.
Oui, c'est scénarisé par Justin Jordan et dessiné par Brad Walker. Autant vous dire que c'est très très joliment dessiné.
Ah ouais, c'est beaucoup mieux qu'avant.
Putain, j'ai été agréablement surpris. Je sais pas qui avait repris la série après le départ de Tyler Kirkham.
J'ai oublié son nom, mais j'aimais pas trop.
C'est nettement mieux et c'est vraiment très joli. On y suit Kyle Rayner, hein, vu que c'est un peu le personnage central de la série, donc le White Lantern, qui on l'a vu dans le précédent numéro dans Green Lantern Corps, bah, qui en gros fait un peu la babysitter pour les gardiens, les nouveaux gardiens.
Les Templars,
voilà. Et en gros, il va avoir la mise pour mission de les escorter pour les balader à l'autre bout de l'univers et les faire découvrir l'univers parce qu'ils ont envie de sortir. Parce qu'ils regrettent que les précédents gardiens, bah, ils se soient enfermés sur Oa et qu'ils en soient devenus égocentriques et cinglés. Et donc ils veulent découvrir tout ça. Et bah lui, évidemment, il a pas que ça à foutre. Kyle Rayner, il a d'autres soucis. Et il va pas avoir envie. Et c'est là qu'on va avoir un petit guest, Al Jordan, qui va. Ils vont partir en aventure tous les deux pour essayer d'en discuter, essayer de voilà de convaincre Kyle Rayner. Un petit point en plus, on va un peu découvrir le thème de cette série, où justement les gardiens, enfin les Templars Guardians, vont avoir envie d'aller voir un truc particulièrement curieux dans la galaxie qui s'appelle The Anomaly, un genre de gros kyste, en gros, ouais. Kyste de la taille d'une planète,
un kyste spatial
très curieux, et j'en dis pas très plus mystérieux. Parce que voilà, c'est mystérieux.
Ouais, je sais pas moi si c'est pas un gros pied de nez à tous les fans que l'on est et qui se demandent ce que c'est que ce putain de New 52 quand même.
Je sais pas ce que tu veux dire par là, mais
qu'est-ce que je comprends pas.
Bah, la façon dont c'est amené, on nous dit que grosso modo, hein, je vais essayer de pas trop spoiler, mais
c'est un ramassis
de tout ce qui ne va pas dans l'univers et des multiples réalités. Et j'ai bien l'impression qu'on essaie de nous faire comprendre que c'était l'ancien univers qui vont défoncer et que du coup l'ancien univers n'existera plus. Enfin, je sais pas, peut-être un pied de nez.
Tu crois que c'est une métaphore?
Oui, sauf qu'en fait, ouais. Pas du tout. Sauf qu'en fait, pas du tout. Si t'as lu le numéro, tu vois qu'en fait, ça n'a rien à voir avec ça.
On verra bien. Moi, j'ai trouvé
je sais pas. On n'en sait pas plus sur ce que sur le personnage final. Pour le moment, on sait rien, donc.
Pas trop en dire. Mais moi j'ai trouvé le numéro assez amusant au niveau des dialogues. J'ai trouvé ça plutôt bien écrit.
C'est drôle.
Il y a une bonne petite blague à un moment sur un surnom pour les gardiens. Je trouvais que c'était pas mal. Et ça m'a fait rire. Et
c'est pas nouveau. Hein.
Non, c'est pas nouveau, mais ça m'a fait rigoler de les de le lire à nouveau.
Guy Gardner les appelait déjà comme ça, en fait.
Ouais, c'est marrant, c'est cool. Il le mérite bien. Et je trouve que c'est vraiment très pertinent, du coup, que cette histoire se passe dans New Guardians, puisqu'à nouveau, bah, ça a vraiment un sens par rapport au titre du comics.
Donc, ouais, tout à fait, ouais.
Ouais, c'est plutôt cool. C'est efficace. Pour l'instant, j'aime bien ces premiers numéros de la nouvelle mythologie Green Lantern. À voir.
Moi, je le mettrais presque devant le Green Lantern de Van Ditti, parce que j'ai trouvé très, très sympa à lire, très plaisant, assez drôle. Et c'est quasiment lui qui nous tease les trucs les plus importants, à mon avis, à venir dans l'univers Green Lantern. Enfin, pour moi, c'est un numéro important, quoi, à lire.
Oui, mais ils ont sûrement aussi mis dans cet épisode-là, parce que c'est vrai que New Guardians était peut-être une des séries qui se vendait le moins.
Bien sûr, mais ça.
Mais c'est bien joué. Je veux dire, marketingement parlant, c'est bien joué. La DC fait un bon travail pour moi. Donc, au contraire, je vais pas leur cracher dessus.
C'est quand même vachement plaisant de lire des numéros de Green Lantern qui suivent comme ça, avec un truc.
C'est exactement là où je voulais en venir. C'est pour moi peut-être la meilleure surprise de l'épisode. C'est que vraiment, on a l'impression enfin que toutes les séries sont liées.
On pourrait faire
la timeline entre les quatre, quoi.
Ouais, ça c'est cool. Et il y a que moi qui ai eu l'esprit mal placé quand on voit Carol Ferris avec sa lampe.
Oui, dans les gens en parlaient.
Je sais pas, j'ai pas fait attention, non.
Enfin bon, voilà, moi ça me fait rire. Et voilà. Et je sais pas si Kyle il a des vues sur Carol, mais. Il lui mate le cul quand même. Enfin bon, voilà, je dis rien.
Le cherche un petit peu. Plus.
Non, Kyle, non, je pense pas. Dans son dialogue, tu sens vraiment que pour lui, c'est la meuf de Hal, quoi.
Non, mais je rigole.
Donc, un bail.
Un bail aussi pour moi.
Ouais, un très bon bail. C'est vraiment une très bonne surprise. Je suis très content pour le moment de ce renouveau de Green Lantern.
On va terminer DC avec Sam qui va nous parler d'une de ses séries favorites chez DC, c'est Wonder Woman, le numéro 21.
Oui, toujours écrite par Brian Azzarello et dessinée par Cliff Chang. Un épisode qui délivre bien ce qu'il avait promis de délivrer, c'est-à-dire la grosse baston de la mort de la fin du monde entre Wonder Woman et The Firstborn. Donc la grosse menace que Brian Azzarello nous monte depuis un an et qui n'avançait plus depuis plusieurs épisodes, donc ça fait plaisir de voir qu'enfin ça amène avec quelque chose. C'est de la bonne baston bien brute, hein. Bien brutale, et notamment quand Orion fait son retour glorieux par un bon gros boom tube. Ça ne se passe pas très bien hein, pour eux, pour les gentils, et la fin, il y aura des pertes. Il y a des pertes. Mmh. Et en parallèle, Azzarello continue l'intrigue, la subplot sur le nouveau-né qui, sauveur, destructeur, à voir.
Sachant que c'est une série de filles et tu dis qu'il y a des pertes, j'ai très très peur. C'est fait, la vanne crade est faite, je suis désolé.
Donc pour moi, ça reste un bail.
Flo, ouais. Tu l'avais lu aussi.
Ouais, c'est excellent. Grosse baston. C'est vrai que ça nous délivre, comme dit Sam, ce qu'on nous a promis à la fin de l'épisode précédent, quoi. C'est assez génial. J'adore les personnages qui sont dedans. J'adore Orion. C'est très malin de l'avoir mis dans cette série. C'est super, c'est toujours très constant comme truc. Et là, il se passe plein de choses, donc ça fait plaisir que cette série, ça a tendance un petit peu à traîner en longueur. Donc c'est très cool, et puis la fin j'ai trouvé excellente, quoi. Mm-hmm. Ouais, enfin, je sais pas ce que t'en penses, Sam, mais ça nous annonce plein de choses assez folles, quoi, pour une série.
On attendait aussi depuis un moment, donc tant mieux.
Bah oui, forcément, on l'attendait forcément, vu ce qui s'est passé plus tôt, mais là, c'est voilà, ça annonce des choses folles pour cette série, donc c'est très cool. On sent qu'il s'éclate là-dessus et qu'il a envie d'aller quelque part.
Donc ouais, vraiment toujours. Toujours de grosse qualité que ce Wonder Woman.
Mais plutôt lire un TPB, je pense.
Ah oui, c'est sûr, c'est plus plaisant. Mais oui, c'est une série qui est là dans son coin. Wonder Woman, elle fait son histoire dans son coin. Pas du tout en rapport avec Justice League ou quoi que ce soit, mais c'est vachement plaisant. Chaque mois, c'est toujours un plaisir à lire. Dans cette semaine, en plus, qui est toujours un petit peu faible pour DC.
D'accord. Bon, voilà, c'est tout pour DC. On va maintenant passer au TPB. On commence avec Boom, puisqu'on les prend en fait surtout dans l'ordre alphabétique pour ne privilégier personne. Boom Comics qui sort le deuxième TPB de Extermination, une série de Simon Spurrier. C'est au prix de $15, c'est la fin de la série avec les épisodes 5 à 8. On continue avec du Dark Horse, un projet assez hors norme par rapport aux comics, puisque c'est un gros graphic novel de The Last of Us, mais surtout des dessins préparatoires, des storyboards, etc.
C'est un artbook, ouais.
Voilà, pour ceux qui ont vraiment hâte d'avoir le jeu en main, qui en veulent plus sur le jeu, voilà, un gros bouquin Dark Horse en fait de temps en temps, c'est pas plus mal, ça change un petit peu comme genre de produit. Très ça vaut par contre $40. C'est pas donné. Continuons maintenant avec du DC, DC qui nous ressort des anciennes choses de l'ancien univers avec le Batgirl Robin Year One. Justement, le Batgirl Year One et le Robin Year One, donc deux mini-séries en quatre, une mini-série en quatre pour Robin et une mini en neuf pour Batgirl, qui sont reprises dans ce tome. C'est fait par Chuck Dixon, avec des dessins de Marcos Martin, et ça vaut $25.
Très sympa, hein. Moi j'avais lu Batgirl Year One et j'ai trouvé ça vraiment très cool.
Voilà. Du côté des New 52, par contre, on a la fin d'une série qui n'a pas beaucoup marqué, mais vu qu'elle ne sort pas en français, je la mentionne pour ceux qui voudraient la découvrir.
C'est peut-être la meilleure série des New 52, quand même. Donc.
Fury of the Firestorm, hein, qui n'est toujours pas fini, malheureusement. je crois que ça s'est terminé, pardon. Reprend donc les épisodes 7 à 12, ainsi que le 0, ça vaut $15, c'est du TPB. Si vous avez envie de vous mettre à une série qui ne sort pas en français.
Idem pour Team Titans.
Retournons dans l'ancien univers avec les Metal Men Archives Hardcover Volume 2. Donc c'est du hardcover, c'est un gros bouquin, ça vaut $75, c'est très gros, mais vous avez les épisodes 6 à 20 des Metal Men, une vieille vieille série, avec notamment au dessin du Ross Andrew. Quand même. Oh, ça vous laisse froid, ça me déprime.
Moi perso, je te l'avoue,
me déprime encore plus. Continuons avec du Vertigo maintenant. Sweet Tooth, volume 6, dernier volume TPB de Sweet Tooth qui sort la fin de la série, les épisodes 33 à 40. C'est Jeff Lemire qui fait scénario et dessin. Une magnifique série et je pense que je vais sortir mon Unspoken de l'épisode 40 et le transformer en Unspoken du dernier TPB finalement.
Oh, c'est un chef-d'œuvre. Cette série est un chef-d'œuvre.
Ah, c'est un chef-d'œuvre, ouais, clairement. J'adore. Du début jusqu'à la fin. Teen Titans, justement, tu en parlais, Bruno, juste à l'instant. Le deuxième TPB est sorti. Le TPB qui s'appelle The Culling. Épisode 8 à 14, ainsi que le DC Universe Presents numéro 12 sont repris. Tout ça pour $17.
Yep.
Série que tu aimes beaucoup et tu es bien
seul. Ouais, c'est pas que j'aime beaucoup, mais c'est pas mal. L'arc The Culling était un peu long, mais il y avait de bonnes idées. Et puis ça introduisait pas mal de jeunes personnages intéressants, donc...
On passe maintenant à Image avec la sortie du deuxième TPB de Saga. Pour ceux qui ne peuvent pas attendre la sortie française, ça vaut $15, ça reprend les épisodes 7 à 12, et ce qui veut dire que ça va bientôt sortir en français.
Immanquable. Ça sort en septembre en français, sinon.
Ouais, et oui, ça va très vite parce que la suite reprend au mois de juillet, je crois, ou août. Oui.
Épisode 13, non, au mois d'août.
Au mois d'août, voilà. Après une petite pause. C'est génial, évidemment.
Et oui, immanquable.
Et toujours chez Image, nous avons le deuxième TPB de Witch Doctor. Alors peut-être aurons-nous aussi le deuxième TPB en VF. Je ne sais pas trop quels sont les chiffres de vente pour le premier TP qui avait sorti Delcourt. C'est écrit par Brandon Seifert et Lucas Kettner est au dessin. Ça vaut $15 et on a le one-shot Witch Doctor de Resuscitation ainsi que la mini-série Malpractice, épisode 1 à 6. Enfin, on termine par Marvel avec, pour ceux qui croient encore, du Avengers par Brian Michael Bendis et qui ont encore envie de soutenir ce monsieur. On y vient dans quelques minutes, qui reprend donc les épisodes Avengers, la dernière série en date, hein, celle écrite par lui. Donc avant le relaunch Marvel Now, les épisodes 25 à 30, ça vaut $20. Continuons avec Incredible Hulk, la fin du run de Jason Aaron, les épisodes 7.1 ainsi que les épisodes 8 à 15 pour $25 en TP. Bonne affaire, pas très cher et très très bon run que celui de Jason Aaron sur Hulk. Et personne ne confirme, ça me déprime là encore une fois. Vous les mains morts. Pour Sam, le cadeau que j'ai prévu de lui faire, le 11e TPB de Invincible Iron Man.
Ça tombe bien, il a plus de PQ.
De Matt Fraction et oui. Salvador Larocca, reprenant les derniers épisodes de la série, 521 à 527, au prix de $20. Un gros
Alors que
Masterworks
Frog s'étouffe.
d'Avengers qui, ça, par contre, va faire beaucoup plus plaisir à Sam. C'est du hardcover, ça vaut $70. Et vous avez Avengers 120 à 128, le Giant Size Avengers numéro 1 de 74, le Captain Marvel 33 et le Fantastic Four 150. Donc la collection Masterworks qui reprend les épisodes dans une très belle collection luxueuse, très luxueuse, d'où le prix de $70, notamment au dessin du Gil Kane. Et enfin, pour terminer les cadeaux à Sam, le Uncanny X-Men Complete Collection by Matt Fraction TPB
ah
3 avec Uncanny X-Men 520, 522, 526 à 634 et enfin le Uncanny X-Men de Heroic Age numéro 1, tout ça pour $30. Si vous ne savez pas quoi acheter à Sam, vous savez maintenant quel cadeau lui faire. Invisible Iron Man et Uncanny X-Men.
C'est un immanquable là.
Les must-buy qu'il a déjà en 10 exemplaires parce qu'il aime faire marcher le commerce.
Non, parce que je suis maso surtout.
Voilà, c'est tout pour les TP, c'est tout pour les reviews. On va maintenant passer au gros morceau, c'est le Age
oui,
of
c'est un gros morceau.
Ultron 10. Comme on l'avait annoncé, on va spoiler, c'est pour ça qu'on a mis cette review à la fin. Et justement, pour cette review, nous a rejoint magie de la technique et de l'émission pas en direct, Bunny.
Oui, bonsoir à toutes et tous et toutes. Voilà.
Waouh!
Tout ça a strictement rien dire.
Non, mais on voit que la lecture d'Age of
Ultron. Je prends la drogue en fait depuis quelques semaines. C'est pour ça qu'on m'entend plus beaucoup. Parce que généralement, je suis tellement défoncé que j'arrive même plus à trouver le PC dans la pièce.
Tellement défoncé, voilà. Tu sais que ça peut être super mal pris ce que tu dis.
Oui, enfin bon, c'est pas grave. Ça fera plaisir à certaines auditrices peut-être qui ont ce genre de délire. Je sais pas.
N'importe quoi. On voit que justement, la lecture de ce Age of Ultron ne t'a pas réussi. Hein. Tu lis un comic en 3 mois et tu lis
oh,
celui-ci, t'as pas de chance.
Oui, ben oui, non mais voilà, c'est ça. Ça fait au moins 3 Comics Weekly ou 4 que je ne suis pas là. La seule review d'un Comics Weekly que je fais, c'est Age of Ultron. Donc bah on est parti. Donc scénario Brian Michael Bendis, au dessin alors un paquet de monde, une palanquée comme on dit, Alex Maleev, Brian Hitch, Paul Neary. Ça doit être un encreur d'ailleurs.
Oui, c'est un encreur
si
de Brian Hitch, ouais.
Butch Geese, Brandon Peterson, Carlos Pacheco, Tom Palmer, David Marquez, Joe Quesada, et on a Roger Bonnet à l'ancrage aussi, et je crois que j'ai nommé tous les encreurs et tous les dessinateurs. Et si j'ai oublié quelqu'un, bah qu'il le signale maintenant ou se taise à jamais. Voilà. Au fait, on démarre ce dernier épisode de Joe Fultron avec Hank Pym qui reçoit un message d'Hank Pym, comme c'est pratique, pour le mettre au courant en fait du déroulement des événements. Alors en fait, souvenez-vous, Wolverine et Sue Richards étaient partis voyager dans le temps, ils avaient essayé d'empêcher l'Age of Ultron et puis ça avait foiré, ça avait créé une dimension dans laquelle c'était encore pire, la magie avait pris le pas sur la technologie. Au fait, Wolverine s'est ravisé, plutôt que de tuer Hank Pym pour empêcher l'Age of Ultron, il a décidé de prévenir celui-ci pour que il trouve un moyen au fait de créer un virus pour en fait vaincre Ultron, mais ça c'est déjà une première chose, mais au fait l'épisode aussi reprend l'ancien épisode qu'on avait vu dans Mighty Avengers, je crois,
non,
dans
Avengers 12.1.
Avengers 12.1 il y a 10 ans au moins de ça, maintenant.
Il y a 3-4 ans, 3 ans, 10 ans.
Ouais, 3 ans,
Marseille,
ouais,
quoi.
C'était à ce moment-là que devait sortir Age of Ultron au départ.
Exactement, exactement. Et c'était à ce moment-là, je pense que c'était quelques temps après le démarrage de Comics Weekly. Donc pour faire une indication de temps, au fait, on en est au 149e et c'était peut-être au numéro 13, quoi, par là, puisqu'on avait démarré
avec le on avait redémarré avec Heroic Age.
Oui, il y en a pas un par semaine. Oh, je suis bête. Je dis n'importe quoi.
Donc ça devait être autour du 30, 40 par là, peut-être. Je sais pas trop.
Allez, enfin en tout cas il y a une bonne centaine de Comics Weekly, donc une bonne centaine de semaines, quand même, bon voilà. Donc on repart sur cet épisode, on retrouve certains moments de cet épisode, mais les choses évidemment se passent différemment, puisque Hank Pym intervient, Ultron est donc vaincu, mais ça a comme effet ça crée un gigantesque bordel sur le continuum espace-temps. Et au fait, d'un seul coup, l'épisode devient un peu un what if du style « Et si Marvel était DC, quoi ?»
Voilà. Donc, au fait, et si Age of Ultron, c'était au fait le Flashpoint de Marvel, au fait, ça fait un petit peu cet effet-là, avec des pages par différents artistes où on voit le mur des réalités se briser. Alors, je pensais voir la tête de Superboy passer, mais bon, il n'est pas là. Point de Pandora non plus, mais il y a quelqu'un qui pourra jouer le rôle de Pandora, puisque à la fin de cet épisode, je vous le spoil tout net.
De toute façon,
net,
on l'a dit, hein, spoiler, attention, donc voilà.
Oui,
on peut
voilà.
Y aller, hein.
D'ailleurs, attends, avant de venir à ça quand même, puisque c'est la dernière page, avant de venir à ça, on voit par exemple donc ce que j'ai compris être l'Ultimate Spider-Man, hein, si je dis pas de bêtises, c'était bien Miles Morales.
Ah non, pas,
ah
du,
non,
tout.
Pas du tout.
C'est le Superman de Terre 2, le Spider-Man de Terre 2.
je me dis, il se fout de ma gueule en plus. c'est Spider-Man de Terre 2, alors tu me dis.
Non, mais oui, c'est d'accord. Ça, c'est l'Ultimate, oui.
C'est Miles Morales.
Le mec qui me croit en plus.
Je comprends plus rien, de toute façon. De toute façon, c'est pas grave.
Un mois sans comics, il a tout perdu comme repère. Quoi.
Oui, j'ai tout perdu, moi. C'est qui? C'est pas Superman,
Spider-Man,
pourtant.
C'est chez Marvel. Hein.
Ah, d'accord. Attendez, j'appelle Claire pour être sûr, quand même. Je peux faire l'appel à un ami, ça peut m'aider. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, je suis perturbé.
Oui, on voit l'Ultimate Universe.
Voilà. Oui, on voit un petit peu l'Ultimate Universe, on voit différentes réalités qui sont torturées, qui sont brisées, et il y a Hank Pym et Tony Stark, et le fauve d'ailleurs, qui discutent un petit peu de tout ça, qui sont inquiets de voir que les réalités ont été perturbées. Et donc, nous terminons sur cette page, qui, comme je l'avais prédit, mais c'était assez simple, il y a plusieurs mois de ça, dans un podcast, j'avais dit que Age of Ultron allait se terminer sur Joe Quesada nous dessinant Angela. Eh bien, ça se termine bien sûr. Joe Quesada nous dessinant Angela. Alors même qu'il avait dit que ce serait pas le final
total. Ah bah si,
total,
ici, il nous avait dit que ce serait la séquence post-générique, quoi, comme la séquence post-générique,
ah oui,
des films Marvel. Donc on savait que ce serait,
d'accord,
ces dernières pages-là.
Mais on n'a pas eu le film, c'est un peu le problème.
Le design du personnage devait être teasé, c'était un design de Quesada en plus.
Alors, j'ai pas compris ce que t'as dit, Florent.
On nous avait teasé le design d'Angela, et le premier visuel qu'on a eu, c'était le design de Quesada, justement.
Ah d'accord.
Donc, c'est lui qui fait
en tout cas, le design qu'elle a là est relativement proche du design
d'origine
qu'on connaît. Enfin, je crois.
Oui.
Grosso
de
modo.
Mémoire, oui.
Par contre, elle voyage donc sur une tête de Thanos momifiée géante. Je ne sais pas ce que c'est que cette merde.
Moi non
voilà.
Plus.
Et de toute façon, c'est à l'image effectivement de ce dernier chapitre qui est pas terrible du tout. Hein, je pense qu'on est tous d'accord. Alors, je vous laisse réagir là-dessus.
On va ouvrir les hostilités. Ouais, on va laisser la parole à Sam qui s'est déjà exprimé sur le site, mais je sens qu'il boue depuis plus d'une heure là, et qu'il a envie de déverser son fiel.
déjà première critique, 20% de l'épisode c'est un reprint. Donc déjà tu te dis j'ai payé 4$ pour un truc, il y a 20% du truc qui n'est pas inédit.
Ouais, mais t'as plus de pages.
Il y a 30 pages hein, dans l'épisode, faut pas déconner.
Ouais, mais
il y a 30 pages, faut pas déconner non plus.
Est-ce que tu mettre le comics à 5 balles au lieu de 4 comme d'habitude et au final
des pages de reprint, faut pas déconner.
Attends,
c'est
pas vraiment
du reprint,
je crois que
c'est
pas
5,
c'est
7
pages.
Ouais, non, je plus putain et mais
attends, il y a 30 pages de BD, t'en as 7, c'est du reprint.
Oui, mais c'est pas
sûr, c'est 25 à 30.
22 pages.
Vous êtes sûr que c'est vraiment les mêmes pages, qu'il n'y en a
oui,
aucune de redessinée?
Non, c'est exactement les pages de Hitch reprises et remises là-dedans. Sauf
d'accord.
qu'on les voit, sauf que dessus, la seule différence, t'as les dialogues de Hank Pym dessus, entre
ouais.
Hank Pym et Tony Stark.
Il y a 7 pages issues
voilà.
du numéro.
Alors, déjà, tu te dis, déjà quand la première lecture, je me suis dit, j'arrive à la page 10, il n'y a rien d'inédit pour le moment, enfin, à part la petite séquence avec Pym au début où il reçoit le message de lui-même. D'accord, donc j'arrive au tiers de l'épisode, j'ai toujours pas vu le combat avec Ultron. Débute le combat avec Ultron qui est expédié en 7 pages, puisque Ultron, qui est quand même la menace super de la mort, qui est impossible à vaincre, qui est écrasé en 7 pages. Voilà. 7 pages et il s'éteint comme une merde. C'est intéressant, d'accord. C'est Bendis qui nous dit que grosso modo, la menace de la mort, ben, il suffisait d'appuyer sur le bouton off pour que ça s'arrête. Super intéressant.
Ouais.
Et quant au truc, oui, les réalités qui s'effondrent, effectivement, j'ai pensé comme vous tous, en fait, c'est Marvel qui nous fait son reboot. Sauf qu'au moins, DC a eu la décence de nous dire que c'était un reboot. C'est ça le problème.
Non, mais en fait, là, il y a un gros souci. C'est quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais pourquoi, au fait? Pourquoi maintenant? Parce que le Marvel Now a déjà débuté depuis un moment. Donc, pourquoi nous faire Age of Ultron maintenant, puisque ça n'annonce rien? Il n'y a pas de changement de prévu dans l'univers Marvel, ou bien alors, je suis pas au courant, mais je sais pas, normalement, tous les arcs actuels sont en cours. Voilà, enfin, il n'y a pas à nouveau Avengers qui va recommencer au numéro 1, ou X-Men, etc. Donc, à quoi ça sert? Autant Flashpoint s'annonçait les New 52, autant là, Age of Ultron, ça aurait été bien que ce soit avant Marvel Now, mais pas pendant Marvel Now, là, ça sert à rien. Qu'est-ce que ça va apporter? Et comment, au fait, Bendis va pouvoir d'ailleurs continuer ce plot des réalités qui foutent le camp, sachant que de toute façon...
Il a trouvé la parade, il est plus sur les séries Avengers. Le mec s'est barré, il fout sa merde et il se casse.
Non, mais il s'est servi de ce truc pour teaser ce qui va se passer prochainement dans l'univers Ultimate avec Galactus.
Non, il voilà, y a pas que sauf, ça.
Et il y a aussi on voit aussi apparaître Spider-Man 2099 et on peut imaginer que il va
oui, c'est le prochain arc de Supérieur.
Voilà, donc ils nous disent ça aussi. Bon,
il y a la future série Avengers AI qui va s'arrêter au bout de deux épisodes.
Voilà, c'est toujours le même problème. C'est toujours le même problème. On aurait pu avoir Spider-Man 2099
sans détruire le mur des réalités.
Exactement, sans même Age of Ultron.
Oui, non, mais là c'est pas un reboot. C'est juste qu'il y a un événement qui se passe qui fait que il va y avoir justement l'apparition d'Angela et que le. En fait, moi ce que j'ai trouvé sympa, c'est que ça faisait plusieurs semaines qu'on se plaignait que Marvel n'arrêtait pas de jouer avec les histoires de voyage dans le temps et que du coup c'était un peu la merde. Il y avait Age of Ultron, il y avait Hulk, il y avait les Uncanny Avengers, il y avait les All New X-Men, il y avait Wolverine and the X-Men, il y avait on sait qu'il y aura Spider-Man 2099 qui va aussi voyager dans le temps, et c'est ça ce qui était assez bien marqué justement sur cette double page. On voit que le fait d'avoir trop joué sur les voyages dans le temps, ça a foutu la merde et du coup ça a créé tout un merde et ça fait arriver Angela.
Oui, donc le problème, c'est que
c'est pas une nouvelle continuité.
Ça passe à sa place là, enfin. On a un truc qui s'appelle Age of Ultron. Ultron, hein.
Mais oui, Ultron. Mais Ultron, ils l'ont défoncé.
Pas Voyage dans le Temps, pas Crisis of Infinite Time, on a Age of Ultron. Et t'as 7 pages de Ultron sur 200 pages.
Ouais, mais Ultron, il s'est fait défoncer grâce à tout ce qui s'est passé avant. S'il n'y avait pas eu ce qui s'est passé
avant,
ils auraient
pas pu
défoncer Ultron.
Le boulot d'un scénariste, c'est pas de faire en sorte que l'intrigue se finisse très exactement comme on pensait qu'elle allait se terminer. Le boulot d'un bon scénariste, c'est de faire en sorte d'apporter quelques surprises dans l'aventure.
Sur 10 épisodes, Ultron, tu l'as quasiment pas vu, quoi.
Mmh. Bah sur les 5 premiers et le dernier.
Non, on le voit pas, Bruno. On ne le voit pas, Ultron.
On voit ces créatures.
Mais c'est pas Ultron.
C'est pas Ultron. Il contrôle depuis le futur.
Mais c'est pas Ultron.
C'est son plot.
C'est pas Ultron,
parle, Bruno.
Ça.
Oh, il contrôle tout depuis le futur.
Je suis désolé. Si tu prends l'autre truc qui s'appelait quand même Age of Apocalypse. Apocalypse, tu le voyais quand même une ou deux fois hein, dans le truc.
Ouais, plus qu'une ou deux fois même.
Voilà, et ouais, t'avais quand même une gigantesque baston à la fin.
Il y avait plus de 600 à 1000 pages de comics, quoi. Donc,
voilà.
Ouais, enfin, moi, ça m'a pas trop choqué, ça. Je suis un petit peu d'accord, je suis entre vous, hein. Allez, entre vous. non, mais voilà, merci de me back-upper là-dessus. J'aime bien renvoyer des anglais.
Je vais backdorer surtout, moi, tu vas voir.
Ouais, c'est cela. Eh bien, attendez. Moi, je suis un petit peu d'accord avec Bruno, parce que c'est vrai que est-il besoin qu'on voit vraiment Ultron pour que ça ait un lien, si tu veux, avec Age of Ultron? Enfin, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire?
Le truc s'appelle quand même Age of Ultron, hein. Pas Age of Notre Ultron.
Oui, mais par exemple dans Flashpoint, le Nega Flash ou le Reverse Flash ou le je ne sais quoi, on le voyait très peu finalement.
Oui, mais déjà,
ça s'appelait pas Nega Flash.
C'était simplement l'effet qu'il avait eu sur le time stream qui était important et les conséquences que ça avait eu. Là c'est pareil avec Ultron, c'est-à-dire que bon, il a entraîné tout ça, donc c'est pas grave qu'on le voit pas. Moi, ça m'a pas désolé qu'on voit pas Ultron. Moi, c'est juste mon gros problème, c'est effectivement qu'est-ce que ça vient foutre maintenant, alors que Marvel Now a déjà débuté, et qu'est-ce que ça annonce concrètement comme changement. Angela, franchement, elle va jouer quoi, les seconds rôles dans Guardians of the Galaxy? L'événement dans l'univers Ultimate, excuse-moi, c'est dans l'univers Ultimate,
mais
je m'en fiche un petit peu, surtout qu'en ce moment l'univers Ultimate, c'est pas l'univers qui fait vendre des caisses et des caisses de comics.
Et justement, c'est bien pour ça qu'on prépare un gros événement pour définitivement fermer cette page.
D'ailleurs, je pense que ça marchera pas, quand même, en fait, ça annonce la série qui s'appelle Hunger, qui est écrite par Joshua L. Fialkoff, et donc on comprend mieux pourquoi.
Oui, mais tout le monde
comme
s'en
il décrit
fout.
à la fois l'Ultimate, il va aussi parler de cette
Ça
attaque de
annonce,
Galactus
dans
l'univers Ultimate. Moi, ça m'a vachement intéressé parce que j'avais pas aimé le Galactus de l'univers Ultimate, et là, on a le Galactus classique qui arrive et qui va foutre la merde. Et ça, moi, j'étais vraiment super content, quoi.
Ok, mais c'est un truc énorme. Ce qu'on voit à la fin d'Age of Ultron, c'est un truc énorme, qui annonce finalement une quantité de petits trucs totalement,
pas intéressant,
relativement insignifiant, quoi. Je veux dire.
C'est le problème de ce Age of Ultron 10. Ce Age of Ultron 10, c'est Marvel Now Point One numéro 2. Ce n'est qu'un teaser. Ce n'est pas une fin d'event, ça. C'est un teaser géant pour la suite.
Oui.
C'est n'importe quoi.
Ouais, puis un teaser en plus de choses, vraiment. Enfin, ça n'annonce même pas de nouveaux titres à proprement parler.
En free comic book day, je suis d'accord, mais à payer 4$ pour ça, c'est carrément du vol, quoi.
Ah, mais en fait, il faut un petit peu analyser le truc. Déjà, pour Angela, on sait qu'elle va revenir, donc c'est pas l'événement du numéro, puisqu'on savait déjà qu'elle apparaîtrait dans ce numéro. On savait dans le numéro 9 comment allait être vaincu le tronc. Donc, globalement, à quoi il sert ce numéro? Voilà, il y a ça. Et Angela, c'est une fausse nouvelle, c'est un non événement, puisqu'on le savait déjà. Et puis en plus, Angela, pour ceux qui connaissent pas Angela, ça veut rien dire. On sait pas qui c'est. Enfin voilà.
Elle peut pas être. C'est ce que je disais aussi il y a quelque temps. Elle peut pas être Angela dans l'univers Marvel. C'est un autre personnage.
Non. Et puis bon voilà, elle va apparaître dans les Gardiens. C'est très bien, mais bon, c'est pas un ultra super génial événement quoi. En plus, on le savait déjà. Donc on pouvait très bien voir la suite dans Les Gardiens et voir Angela, c'est tout. Vu que c'est que deux pages dans Age of Ultron 10. Et il faut quand même se mettre à la place du lecteur qui a pris Age of Ultron comme une vraie intrigue. Ça a duré 10 numéros quand même, ça nous a coûté $40.
$40 pour ça, quoi.
Et là, j'ai l'impression que... Enfin, exactement ce que j'avais... ce que je voyais comment ça se construisait à partir du numéro 6, c'est-à-dire que c'est un patchwork. C'est un patchwork, Age of Ultron, ils l'ont casé là, bien, éditorialement, et le numéro 10, alors là, c'est, autant ça se tenait bien jusqu'aux deux tiers, et là, on sent que, en faisant traîner les choses, là, on sent que le dernier numéro, c'est un truc casé. On s'est dit, bon, on va prendre un petit peu la fin qu'il avait prévue, et on va lui rajouter des trucs, tu vois. Je veux dire, c'est simple, après qu'il ait vaincu Ultron, ça n'a plus rien à voir.
C'est un ratage éditorial total que cet event.
Dire, ah ça y est, ils ont vaincu le tronc, et là après, boum, ça fait boum dans le time stream et tout ça machin. Parce que, oh tiens, on a joué avec le continuum espace-temps une fois de trop. Je veux dire, on aurait pu caser ça dans un Free Comic Book Day, cette partie.
Exactement.
Partie-là. Je sais pas, pour moi, ça n'a rien à voir avec le côté time stream. Pourquoi à ce moment-là? Parce que... Ils disent,
ils ont trop abusé des voyages dans le temps.
Oui, mais dans ce cas-là,
ça fait depuis les années 60 qu'on abuse des voyages dans le temps.
Oui,
c'était vraiment quelque chose de symptomatique de Marvel qu'on critiquait. Ils n'avaient que ça à la bouche, c'est faire des voyages dans le temps dans toute leur série.
Mais c'est pas prêt de s'arrêter en plus. Quand bien même c'était important, d'une part, c'est pas prêt de s'arrêter. Et pourquoi faire? Qu'est-ce que ça apporte? Ils font pas un reboot, ils font pas un truc énorme.
Ah oui.
Qu'est-ce qu'ils teasent? Ils teasent Avengers AI, que personne va lire. Mm-hmm. Et ils teasent Hunger 1, l'apparition de Galactus.
Qui sera sûrement la fin de l'univers Ultimate à jamais, hein, clairement, parce que c'est comme ça qu'on va nous l'annoncer. Hein. Bon, c'est Ultimatum 2 qui va définitivement clore le chapitre Ultimate.
On voit apparaître Spider-Man 2099. En gros, on voit qu'il y a peut-être des choses qui vont apparaître et qu'on va peut-être avoir un Spider-Man, une deuxième mini-série Spider-Man, on va avoir Spider-Man 2099 qui va réapparaître dans l'univers classique. Voilà, ça nous tisse des choses, mais honnêtement, c'est pas une fin d'event. La fin de l'event, c'était les deux pages où on voit Ultron exploser après que Pym ait déclenché le virus. Et ça, excusez-moi, on le savait déjà au numéro précédent.
Parlons du virus de minutes. Un mec qui, quand même, pendant 5 pages, me dit « Attention, bientôt ah, !»« C'est presque là !»« Attention, ça va venir !»« Attention, bientôt !»
Putain, c'est comme un peu foireux.
Scientifique suprême, les enfants. Scientifique suprême, je le rappelle.
C'est le temps que ça charge.
Ouais, le temps que ça charge.
T'as jamais eu des problèmes, toi, de chargement?
Mais moi, j'ai pas la technologie Marvel.
Non, moi, le truc le plus choquant dans ce numéro, c'est que Hank Pym s'est envoyé un message sur une tablette Arcos. Oui. Regardez bien, page 1, 2, 3, en bas.
Ça m'a vachement fait penser à Total Recall, moi, cette
scène. C'est une tablette Arcos Cocorico.
Non.
Alex Malif a dessiné le tableau d'Arcos.
Il faudra m'expliquer comment il a pu s'enregistrer le message sans qu'il en ait le souvenir. Enfin, là, c'est pareil. Bendis n'explique rien, laisse le flou total, ça ne tient pas debout.
Je suis tout à fait d'accord. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup gêné dans ce numéro. C'est le rôle de Suzanne Storm, en fait, qu'on voit en transparence, qui a priori a délivré le message.
C'est pas a priori. C'est sûr.
Ça, j'ai pas compris.
C'est elle qui vient déposer le truc.
Mais j'ai pas du tout compris comment ça marche, puisqu'après on la voit arriver à notre époque avec Wolverine et on n'a pas l'impression qu'ils ont le même costume. Enfin, ça c'était vraiment très étrange.
Bah, c'est pas le dessinateur.
Mais c'est mal foutu. C'est un patchwork, c'est mal foutu.
De toute façon, tout l'épisode est mal foutu.
C'est mal branlé.
Ah, vous savez à quoi ça me fait penser aussi, cette fin, par exemple, quand on voit Wolverine qui d'un seul coup, ah, j'ai mal à la tête, mon dieu, mes souvenirs se barrent ou je ne sais quoi. Où ils sont encore une fois modifiés pour la 150 000e fois, ça me fait penser aussi aux conséquences inexistantes du coup de House of M sur certains personnages. Souvenez-vous que Spider-Man, dans House of M, il était quand même marié à Gwen Stacy, c'était lui le bouffon vert, etc. etc. Et dans la série Spider-Man, il n'y a eu aucune conséquence à ça, ça n'a jamais été adressé au fait. Et là j'ai l'impression qu'il y aura plein de super-héros comme ça qui, dans leur propre série, ne parleront pas du tout des conséquences d'Age of Ultron. Et ouais, c'est
il faut donner un peu le bénéfice du doute. Peut-être que tout ce qui va se passer dans Guardians va être super intéressant avec Angela et que
Bruno,
du coup on aura peut-être des explications sur ça,
on est
sur le rôle d'Angela sur le time stream et compagnie.
Oui,
quoi.
On est en route vers Infinity. Marvel mise tout sur Infinity.
Bah oui. Il est clair que si Infinity avait été teasé comme la suite d'Age of Ultron, je voudrais bien. Mais malheureusement, c'est pas le cas. C'est
ça
encore
part sur
autre chose.
Totalement autre chose. Ça part sur Thanos.
On verra.
Totalement autre chose.
Je sais pas comment tu fais pour être optimiste, Bruno. Quoi. Là,
non,
c'est...
mais je vous avoue, ce numéro, je vais pas dire que c'est un gros bail. Il y a des choses qui m'ont gêné. J'étais déçu comme vous. Par contre, de là à le bâcher autant, non, parce que finalement, j'ai passé un bon moment avec cet event et j'étais assez excité par ce qui se passe sur l'univers Ultimate. J'étais content.
Oui, mais parce que tu aimes l'univers Ultimate, quoi. Mais parce que limite, tu préfères l'univers Ultimate à l'univers Marvel classique.
Voilà,
c'est pour
mais,
ça. Mais parce que honnêtement, c'est quand même un univers qui s'adresse.
Pour moi, j'étais le public. J'étais le public.
Oui, mais c'est un event qui s'adresse pas aux gens qui lisent Ultimate. C'est un event qui s'adresse au Marvel classique à départ.
Ouais, mais il s'adresse aussi aux gens qui se sont remis à Marvel avec le Marvel Now. Puisque moi, pareil, le Avengers, je sais pas quoi, point 1, là, je l'avais pas lu. J'ai découvert là-dedans. J'ai pas eu cette sensation de redite. J'ai trouvé ça cool, quoi. Donc, bon, voilà, quoi.
Pour moi, la Bendis vient de signer l'arrêt des events. Des events Marvel qui lui sont offerts, quoi. Je vous encourage à aller voir sur le net, voir les reviews des autres sites, hein, des sites très connus, hein, Newsarama, iFanboy, Comic Vine, etc. Voir comment il s'est fait bâcher par tout le monde, sauf par CBR, qui apparemment doivent avoir reçu un chèque de Marvel. Parce que ce sont les seuls qui ont mis 4 étoiles et demie sur 5.
Bah, j'attends c'est le fait de boire trop de bière, hein, à chaque fois.
Non,
c'est bien.
Non mais c'est une vraie pantalonnade cet event. On a 5 épisodes de départ qui sont absolument connectés à rien du tout. On a une équipe qui s'en va dans le futur dont on n'a jamais entendu parler.
Bah parce qu'ils crèvent tous dans l'épisode 6.
Ensuite, on est passé carrément dans le passé, on part sur une autre histoire avec Docteur Doom qui s'est marié à Morgan Le Fay, qui était une très bonne idée, hein. J'aurais bien aimé en voir plus, mais de toute façon c'est terminé en 2 épisodes et on n'en parle plus. On a un Wolverine qui est censé s'entretuer, mais de toute façon on voit rien. De toute façon, c'est l'event du je te montre rien, quoi. Tout se passe hors champ.
Quand je vois que le truc a été mis sous polybag.
Mais oui. Elle est où cette putain de surprise? Elle est où cette surprise?
Ils ont vraiment essayé de nous teaser en nous disant oh, putain, on va l'emballer et tout. Alors que honnêtement, c'est surfait, quoi.
Rappelez-vous la com de Marvel. Personne ne devinera la fin. Personne ne devinera la fin de ce comic.
Bah oui, effectivement, on n'a pas deviné, hein, parce que c'était impossible de deviner un truc pareil.
On n'a pas deviné que Bendis allait nous enculer comme ça, parce que franchement, il nous a enculé là. À sec, avec une poignée de gravier, du morceau de verre pilé et du sel pour pas que les plaies se referment.
Bah, beaucoup, et moi compris, avaient peur de ce numéro 10. Moi, j'avais peur que le numéro 10 soit bricolé en fonction des décisions éditoriales et que le reste de l'event, c'était le truc que Bendis avait prévu avec ce dernier épisode bricolé.
Mais c'est tout l'event.
Je suis tombé dessus, quoi. Voilà,
non, c'est tout l'event qui est du rafistolage. En fait, c'est l'event du rafistolage.
À partir du numéro 6, on sent que...
Mais non, mais même les premiers. Même les premiers, puisque c'est de l'ancien matériel qui aurait dû sortir il y a bien longtemps, qui a été réutilisé et remis au goût du jour.
Alors ça, ce qui est sûr, c'est que oui. C'est que Age of Ultron, numéro 1, nous prend déjà avant le Marvel Now.
Bah oui.
Et là, est-ce qu'il se passe à la fin, se passe avant Age of Ultron, sauf que ça va se passer pendant le Marvel là. C'est censé se passer pendant le Marvel.
Finalement, Age of Ultron n'a jamais existé. On a lu un non-event.
Donc c'est incohérent.
Mais oui.
Parce que dès le départ, c'était chier quoi. La seule issue qu'on voyait à ce truc, c'est ce qui s'est passé dans Age of Ultron. En fait, c'est une autre terre ou un autre truc. Alors que c'est censé se passer actuellement. Et effectivement, le numéro 10 nous dit que ça se passe actuellement. Et que ce qui se passe dans le numéro 10 se passe avant Age of Ultron 1. Et ce qui se passe pendant Age of Ultron 1 n'est pas raccord avec le Marvel Now.
Bah, n'existe plus.
Je vais jouer le candide, mais pour quelqu'un qui découvre Age of Ultron maintenant, qui a commencé avec le Marvel Now, on lui dit que le Spider-Man de Age of Ultron, c'est le supérieur Spider-Man. Donc, je sais que c'est du brodage, je sais que...
Oui,
je
mais c'était pas raccord en plus dans la personnalité du Spider-Man. Ouais, donc,
c'était vraiment, vraiment très...
Je suis tout à fait d'accord, mais ils essayaient d'essayer de faire en sorte que ça passe.
Mais ça passe pas.
Voilà, quoi.
Ouais, mais vous savez à quoi ça me fait penser, tout ça.
On dirait que t'essayes de prendre un suppôt, mais de travers, quoi. Ça fait le même effet.
Moi, ça me fait penser à la série Robotech, qui était au fait un rafistolage de trois séries japonaises qui avaient rien à voir les unes avec les autres, et qu'ils ont collé en trois. Enfin, c'est les Américains qui ont fait ça, qui ont collé ces trois séries ensemble.
Et qui est devenue une série culte.
Pour que ça devienne un truc cohérent. C'est-à-dire que dans la troisième partie, par exemple, t'avais quelqu'un qui était censé être le cousin d'un personnage de la première partie, mais c'était au fait juste trois séries différentes collées les unes aux autres, quoi. C'est les unes après les autres. C'est juste
clair que c'est un rafistolage de fou, quoi, Age of Ultron.
C'est exactement le cas, quoi.
Et pour ceux qui étaient présents dans les weekly news dans lesquels on avait parlé d'Age of Ultron quand ça avait été annoncé, on avait tous peur, je me rappelle à l'époque, du syndrome Flashpoint, que Marvel nous fasse son Flashpoint. Finalement, on en est peut-être pas si loin que ça, quoi.
Bah, on n'en est pas loin, mais le problème, c'est qu'ils l'ont pas fait au bon moment, c'est con.
Ah oui, ah oui, mais donc pour une surprise qu'on n'était pas censé deviner, je crois qu'on avait tous deviné 6 mois auparavant, quoi.
Ah
encore
oui,
une fois avec Marvel. Non, franchement, merci Bendis, ne nous refais plus jamais d'event, s'il te plaît, quoi. Si c'est pour faire ça, ça vaut la peine.
Clairement grillé pour un moment. Hein.
Ah oui, oui, oui.
Bon, non, là, il va continuer sur les X-Men et peut-être qu'il va nous sortir des events sur les X-Men.
Ah bah le prochain event X-Men, c'est quand même Battle of the Atom, ou For the Atom, je ne sais plus, qui va nous voir s'affronter les X-Men du passé de All New X-Men avec les X-Men du futur qui veulent réparer la réalité.
Bah ouais.
Putain, mais Bendis, il s'est regardé Retour à le futur dernièrement, il vient de découvrir le truc, il s'est dit c'est génial les voyages dans le temps. Je sais pas. C'est
y a pas que lui, hein.
Pitoyable. J'ai pas d'autre mot, c'est pitoyable. C'est vraiment la déception, quoi. C'est.
On donnerait nos notes pour marquer un point.
Bah, c'est impitoyable pour Steve.
Ah, c'est un méga pass.
Une pantalonnade.
Je confirme, c'est un putain de gros pass.
C'est l'exemple même du mauvais comic, quoi. Et Panique. Du mauvais event.
Pour moi, c'est un petit bail, surtout si vous avez acheté les premiers, hein, quand même. Finissez au moins la saga. Quitte à leur vendre après si ça vous plaît pas, mais moi j'ai trouvé ça plutôt agréable à lire au final et j'attends de voir les conséquences après derrière. Si
ah mais je comprends. En fait Bruno a reçu le vrai épisode. Il a reçu le vrai The Fall Throne 10 et nous on a reçu la bonne blague.
Bruno
c'est
a reçu un chèque de Marvel.
Je le garde pour moi. Je garde pour moi.
Bruno a reçu un chèque de Marvel et de Bendis. Comme si bien.
Ouais. Ouais, j'ai pas reçu le chèque pour Batman et Robin aujourd'hui.
Non, mais Bruno, il est dans le mauvais time stream, celui où justement Bendis fait du bon boulot et où Bendis est un génie.
Pourtant, je suis un lecteur plutôt optimiste et assez récent, puisque voilà, j'ai commencé Marvel avec Marvel Now. Je suis quand même optimiste. Et pourtant, pourtant, ça m'a déçu. Et pourtant, je suis loin, loin, loin du lecteur aguerri que peuvent être Sam ou Steve ou Bonnie, mais là j'étais vraiment très déçu quoi de cet event.
Ah bah moi je regrette Fear Itself après la lecture de ça. Hein.
Oh non non peut-être donc, pas.
Ah si. Non mais je veux dire dans la globalité. Non je parle de la globalité et dans l'impact. Fear Itself avait plus d'impact que ça. Pour le moment en tout cas.
Ouais mais ça tu le sais par rapport à ce que t'as vu après. T'en sais rien encore pour Age of Ultron. T'en sais rien.
Il suffit de lire les sollicitations, on s'en rend vite compte.
Mais ça veut rien dire.
Ils le disent que ça aura pas de lien. De toute façon, Infinity n'aura pas de lien avec Age of Ultron. Ils l'ont dit maintes fois.
Mais après, Infinity va y avoir autre chose.
Oui, mais on fait pas de conséquences à un événement 6 mois ou un an après, quoi.
Il y aura Avengers.
C'est absurde.
Avengers AI.
Moi, je vais quand même lire, ouais, le même pas le.
Ça,
Avengers
c'était bien AI, ridicule. Je vous l'accorde, c'était bien ridicule quand Tang Ping il fait ah. J'ai trouvé ce qui n'allait pas.
Exactement. Voilà.
Ça, c'était vraiment super naze.
Je vais quand même lire l'épisode de Mark Waid qui est censé se baser sur Hank Pym pour voir ce qu'ils vont nous sortir.
Oh, fanboy.
Non. Mais même là, j'ai déjà pas confiance. Je pars déjà avec un très mauvais a priori. Ça a beau être Mark Waid, je suis pas sûr qu'il puisse relever le niveau après ça, quoi. Bon, après tout, en partant en négatif, on risque d'avoir une bonne surprise. C'était peut-être ça le but. Bref, donc gros passe pour tout le monde. Je crois que voilà.
Ah, moi j'ai pas donné ma note, donc un gros pantalon pour moi, taille éléphantesque.
Et on est bien content de s'être fait arnaquer 40$.
Voilà, ouais. C'est bien.
Merci qui ? Merci la maison des idées. Allez, c'est tout pour cette semaine. C'est déjà bien assez long. J'espère que vous aurez pris plaisir à écouter notamment cette review avec spoiler. On n'en fait pas souvent. On garde vraiment ça pour les gros trucs. Là, on pouvait pas passer à côté. On était obligé de spoiler. De toute façon, si on n'aurait rien eu à dire.
Donc, la prochaine, c'est pour le prochain Phantom Stranger, je crois.
Phantom Stranger et Edge of Ultron, mais expliquez-nous les goûts de ce monsieur, quoi. Mais va dans l'espace.
Et meurt.
Mais meurt, ouais. Meurt très loin dans l'espace. J'aimerais bien te voir dans l'espace et mourir.
Oh oui.
On dirait un truc dans les Chevaliers Zodiac, tu sais.
Et vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Je préfère relire 10 fois Age of Ultron que de revoir Man of Steel. Voilà. Petit teaser pour plus tard, mais voilà.
Oh putain, on en reparlera la prochaine fois. Oh putain, moi je l'ai pas vu et là tu me fais très peur.
Du coup, vu ses goûts, vu qu'il a des goûts inverses aux nôtres, ça va sûrement être très bon.
Oui, on en parlera sûrement lundi dans le Weekly News. Justement, vous pourrez le retrouver disponible dès mardi, puisque nous, on l'enregistre le lundi. D'ici là, vous pouvez réécouter tous les anciens podcasts sur le site, sur iTunes ou encore sur tous les bons agrégateurs de podcasts. Je rappelle que le Comic City 77 est sorti cette semaine, avec toutes les reviews, la grosse sélection, très grosse sélection du mois de juin. N'est-ce pas, Sam ?
Putain, oui.
Entre-temps, bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter et nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr. Merci à vous et à la semaine prochaine pour le grand live, le numéro 150, qui sera en direct, qui sera exceptionnellement le vendredi. Vendredi soir à partir de 21h, vendredi 28 juin, en live, en direct et en vidéo sur YouTube. On vous mettra l'adresse de toute façon, on vous en reparle. À très bientôt.
À bientôt les gens.
Et bonne pantalonnade à tous.